Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien. Et oui, la musique de la Ligue des Champions, c'est reparti pour deux heures magnifiques aujourd'hui. Une journée noire hier pour les clubs français. On a pris deux branlées. Enfin, je suis désolé du terme, mais bon, du moins, surtout une, l'AS Monaco. J'ai du mal à m'en remettre. Et Paris aussi. Donc, on a pris deux claques. J'espère que ce soir, ça va être différent. On est avec Benoît Boutron. Bah oui, il va porter chanson marseillaise, Benoît. Salut, Benoît.
Salut, Jérôme. Salut à tous. Bah, on espère que l'OM va aider la Ligue 1 pour l'indice UEFA, bien sûr.
Bah oui. Et puis, pourquoi on va être bien, et c'est bien pour l'Olympique de Marseille. On a un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Christophe Dugarry. Salut Dugas.
Les gens.
Salut Jérôme, salut Benoît. Écoute, on a bien fait hier de parler avec Ludo Juli de Monaco, de ce qu'il fallait faire et tout. Ah non, mais là, s'il faut, alors là, si j'ai bien compris, si je vous ai bien écouté hier, il va falloir prendre un mec pour leur expliquer qu'à Monaco, c'est différent des autres endroits et qu'il faut se motiver. Il va falloir engager un mec pour leur dire ça, parce qu'apparemment, ils n'ont pas compris que Monaco, c'est différent des autres clubs.
Je pense qu'ils ne l'ont pas compris, c'est vrai. C'est mais tu as raison. T'as raison
de on en parlera à 19h.
En tout cas, du gars, tu peux reconnaître que les critiques de la part de Ludo ou de ma part ont été confirmées hier.
Alors, je mettrai par contre un petit bémol. Vous avez exempté le coach, il va falloir quand même à un moment
on en parlera à 19h30.
C'est pas faux aussi. Non, c'est vrai.
Un petit peu.
Je m'attendais pas à ce qu'ils en prennent 6 quand même.
C'est ça.
Là, il est sur une bonne série. Là. Lui, il va falloir qu'il se reprenne aussi. On est avec quelqu'un qui a rêvé de jouer à l'OM. Il a failli jouer à l'Olympique de Marseille. Il nous l'a dit.
C'est vrai.
C'était une info incroyable. C'est Benoît Costil. Salut Benoît.
Salut Jérôme, tu commences l'année par vouloir me mettre dans la sauce.
Bah non, mais c'est toi qui l'as dit.
C'est toi qui l'as dit.
Ouais, mais bon, c'est bon, c'est du passé.
Alors, t'as fait faux bon à Marseille. Écoute.
Oh non, non, je peux pas prétendre ça non plus.
Bon, en tout cas, on est content de. Moi, je suis content de te retrouver parce que c'est la première de l'année.
Ouais. Ensemble. Meilleur vœu, Jérôme, meilleur vœu. J'ai eu l'opportunité de le souhaiter à Benoît et à Christophe.
Bon. Et ben, meilleur vœu à toi, et on va parler des gardiens de but en plus, un peu ce soir.
Paraît-il,
ouais, exactement. Dans le procès notamment. À 18h30.
Il y avait des gardiens dans
parce qu'on va débriefer justement cette soirée des champions.
Comment aussi.
Et ouvrir le procès de Luis Campos.
Il y en avait un à Monaco.
Ah bah oui, tu vois.
Il n'a pas fait un arrêt. Alors, il y en avait un aussi, il n'a pas fait un arrêt.
Alors, Luis Campos sera accusé de s'être trompé sur Zabarnie et Chevalier, les deux recrues de l'été dernier. C'est notre procès à 18h30. Un procureur, deux avocats. Et votre verdict au 32-16. Le match du soir, c'est donc Marseille-Liverpool. On va se remémorer de bons souvenirs avec Mathieu Valbuena à 18h45. C'était lui le héros, souvenez-vous, en 2007 de ce Liverpool-OM, un but fantastique qui a lancé sa carrière marseillaise. Donc il sera avec nous pour nous raconter tout ça. Et puis à 19h, est-ce que l'OM est prêt pour l'exploit? Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Et puis l'événement sur RMC aujourd'hui, eh bien c'est l'expérience RMC et le match qu'on vous présente.
Ah ouais.
Il est encore plus important que prévu.
Il est décisif celui-là.
Paris Saint-Germain Newcastle, mercredi de la semaine prochaine, 21h, au Parc des Princes. L'expérience RMC, vous venez assister à Rotten sans flamme.
C'est pas tes abonnements là, Benoît.
Ah
c'est
non.
Pas
tout en haut. C'est des vraies places magnifiques.
Ah, t'es bien placé.
Là, vous voyez deux côtés du terrain. Vous n'êtes pas bloqué sur un poteau de corner.
Là, petit four, t'es pas loin de moi.
Là, c'est beau.
Ah, c'est bien.
Limite les huîtres de Ben Costil. Quoi, on est à deux doigts de la réception magnifique, quoi.
Bah non, depuis qu'il a dit qu'il préférait l'OM à Paris, au parc, il est pas le bienvenu.
Hein. Si, il est le bienvenu.
Tu rigoles ou quoi?
Bah oui.
J'aurais été bien reçu au parc.
Ouais.
Donc,
ah,
vous l'avez dit. Je repartais.
C'était le retour qui était dur.
Je repartais avec un paquet.
C'est bon ça.
Ah, c'est vrai que les valises étaient pleines. Ouais.
L'expérience RMC, vous venez, vous assistez au match, vous avez deux places et vous revenez débriefer le match dans l'after. Dès que vous entendrez ce signal sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16. 18h04 sur RMC. Tout de suite, Luis Enrique a une explication pour la défaite d'hier.
Le but pour le Sporting Portugal. Réussite maximale.
C'est toujours sur moi que ça tombe les complications.
Voir ce qu'il y a. Se met sur son pied droit. Il frappe. Il marque. 4, il est exceptionnel. Ça fait un partout.
Ça a été le meilleur match à l'extérieur de cette saison. On a surmonté l'adversaire.
La tête, le but. Il s'est raté, Chevalier. Il relance plein axe. Luis Suarez qui vient punir la maladresse du gardien parisien.
On a perdu parce que c'est football de mer. C'est un sport de mer.
Le comportement, l'attitude est tout simplement scandaleux.
C'est le football. Le football, c'est un sport qui est injuste.
C'est vraiment trop injuste.
Je suis assez inquiète.
Encore une soirée frustrante pour le PSG, donc cette défaite 2-1 à Lisbonne contre le Sporting. Paris ultra dominateur, 75% de possession de balles, 3 buts refusés logiquement, 28 frappes tentées. C'est le manque d'efficacité qui a plombé les Parisiens. La conséquence, c'est que Paris recule à la 5e place de la phase de Ligue et devra valider sa place dans le top 8 la semaine prochaine, donc face à Newcastle. Il est rentré du Portugal, Arthur Perrault avec nous dans ce studio. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
L'énorme frustration hier soir donc de Luis Enrique.
Oui, après cette rencontre où le Paris Saint-Germain a tout essayé hier et il a de quoi s'en mordre les doigts. Le PSG, tu l'as dit, 3 buts annulés, 28 tirs au total, 75% de possession de balles, une domination stérile du club parisien qui rappelle ses difficultés de la saison dernière. Au même moment, face aux médias, juste après la rencontre, l'entraîneur parisien Luis Enrique apparaît le visage fermé et tente d'expliquer l'inexplicable.
On a perdu parce que c'est football de mer, c'est un sport de mer, parce que tu n'as besoin de faire si merde en espagnol, de mer. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport est peut-être est aussi injuste, toi, c'était ça. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Je suis habitué à ça. Et c'est frustrant. Et vous qui aimez les critiques, je voudrais féliciter mes joueurs. Je suis très fier de ce que j'ai vu. Et pour moi, c'est la manière pour arriver très loin dans cette compétition. Et c'est ce que j'espère.
Ce discours, eh bien, il est défendu dans les hautes sphères du club où l'on note que parfois dans le football, il y a des résultats inattendus. Pas de panique, on se ressaisit et on recommence glissant au club.
C'est la une de Rotten sans flamme. Doit-on commencer à s'inquiéter pour le PSG 32-16, Jérôme? Ah, est-ce que ça y est, tu commences à t'inquiéter?
En fait, j'ai pas à être inquiet. C'est juste constater que depuis la reprise de cette saison, le PSG est inconstant en termes de résultats, parce que là, c'est vrai que dernièrement, ils enchaînent plus de défaites que de victoires. Il y a eu des matchs accrochés, même des matchs qu'ils ont gagnés depuis le début de saison, où ils ont été, ils étaient pas irréprochables et où l'adversaire les a vraiment mis en difficulté. C'est pas moi qui le dis, c'est même Luis Enrique qui l'a expliqué il y a quelques semaines. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qui ne vont pas toujours. Hier, en effet, la chose qui me rassure en quelque sorte sur le match d'hier, où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a une ultra domination du Paris Saint-Germain. Ils ont gagné tous les duels, ils récupèrent le ballon haut, et on en a parlé hier avec Duga. Je trouve que en effet ils se sont améliorés sur les dernières semaines de ce côté-là. Il y a une prise de conscience où il y a plus de volume des joueurs, physiquement ils sont certainement mieux, à défaut d'être au top techniquement parlant, parce que la vérité c'est qu'hier, techniquement parlant, pour finir les actions, c'est pour ça qu'il y a un manque d'efficacité. Il y a des joueurs qui sont pas au même niveau que l'année dernière, hein. Il faut appeler un chat un chat. Dembélé a été très bon contre Lille hier, il y a beaucoup de déchets. Doué quasiment inexistant. Barcola sur le côté gauche, bah il fait beaucoup de différence. C'est le seul qui va dans la profondeur et qui avec ses courses fait mal aux adversaires. Mais dans la finition, bah ça laisse un petit peu à désirer. Et puis le milieu de terrain, il faut être très clair. Quand aujourd'hui t'as pas au meilleur niveau Vitinha, Ruiz et Neves, c'est problématique. Et en plus, quand il y a un de ces trois-là qui n'est pas là, comme c'est le cas de Neves en ce moment, bah, c'est remplacé par Mayulu. Et Mayulu, je continue à dire que la progression, elle s'est arrêtée. C'est plus une régression. Et qu'aujourd'hui, en effet, il n'arrive pas sur ces matchs qui sont difficiles en Ligue des Champions à l'extérieur contre n'importe quelle équipe. Il n'arrive pas à prendre le dessus et la mesure de son adversaire. Donc, quand tu fais ça, plus ça, plus ça, plus le fait que Hakimi, qui est quand même, on l'a vu l'année dernière, dans la stratégie de Luis Enrique, Hakimi et Nuno Mendes, c'est des détonateurs. Aujourd'hui, Hakimi, il était blessé, il est parti à la CAN, donc c'est Zaïre Emery. Ils sont un peu plus prévisibles avec Zaïre Emery ou un autre sur le côté droit, ou quand tu mets Zabarni, alors j'en parle même pas de Zabarni, parce que là, franchement, lui, voilà, on va en parler tout à l'heure. Donc ce que je veux dire, c'est que le PSG est en effet plus prévisible aujourd'hui. Les équipes adverses, elles savent plus ou moins comment les mettre en difficulté. Et puis en plus, dans les zones décisives, ça soit pour marquer des buts ou pour prendre des buts, eh ben, tu manques d'efficacité. Donc l'inquiétude de moi, elle est là. Tu sais, tout à l'heure, je me disais qu'on on a construit l'émission ce matin et qu'on avait décidé du thème du jour. Je me disais, mais tiens, je vais regarder les derniers matchs du PSG. Il y en a eu beaucoup, hein. Ils ont beaucoup joué. Le dernier bon match du PSG, gros match, en Ligue des Champions, même en championnat et en Coupe de France, c'était la victoire 7-2 contre Leverkusen. Tous les autres matchs qu'il y a eu, il y a eu des victoires. Mais il y a eu une mi-temps de bien, 20 minutes de bien, une mi-temps très moyenne, et surtout les adversaires se sont créés beaucoup de situations. Eh ben oui, eh ben ça, excuse-moi, quand ton dernier bon match, c'est Leverkusen qui était au mois d'octobre, au mois de novembre, c'est un petit peu inquiétant.
Dugard, est-ce que tu commences toi aussi, comme Jérôme, à t'inquiéter ?
Moi, j'ai pas aimé, pour tout te dire, l'explication de
Luis Enrique. Ouais.
Voilà, de dire que c'est un sport de merde parce qu'ils ont perdu et parce qu'ils ont soi-disant tout fait. Non, c'est justement pour ça que c'est un sport magnifique. C'est un sport magique. Tu peux être dominé, tu peux être acculé, mais tu peux toujours te battre jusqu'à la fin, jusqu'à la 90e, avec tes éléments, avec tes arguments qui sont moins importants que ceux du Paris Saint-Germain du côté du Sporting, avec des moyens moins importants, avec des joueurs moins talentueux. Et les mecs, ils lâchent rien et à la fin, ils arrivent à gratter. Mais j'ai pas aimé l'analyse qu'en a fait Luis Enrique. Alors je pense que c'est de la com pour rassurer ses joueurs et pour leur dire, les gars, le football va tourner, on a tout fait bien, il manque juste question de détails. Il y en a eu des dizaines de matchs comme ça, ça a toujours été son discours de relativiser et de dire qu'ils ont fait l'essentiel. Mais moi j'aime pas cette façon de présenter le foot, parce que je trouve que c'est inélégant de s'en prendre au football sur cette défaite là. J'aime pas, au contraire, parce qu'il faut aussi se mettre à la place de l'adversaire et du Sporting qui a battu la meilleure équipe du monde. Ce qu'ils ont fait, le Sporting, c'est magnifique. Et l'entraîneur, il doit se dire, mais quel sport magnifique.
Ah oui, s'en fiche, c'est incroyable, c'est que ça donne,
Sporting. Mais ça n'empêche pas d'être élégant. Bien sûr que ça fait du Sporting. Mais dans ton analyse, quand tu me dis un truc comme ça, tu dédouanes ton gardien et tu dédouanes la qualité.
Bah, c'est le but d'ailleurs, je pense.
Parce que s'ils ont perdu hier, c'est parce que techniquement, c'était pas bon. Je crois qu'ils ont fait 21 centres dans la partie, il y en a 5 qui ont réussi.
C'est pas normal.
Le gardien, c'est pareil. Sur sa faute de main, c'est une faute technique. Et aujourd'hui, les Parisiens, même s'ils récupèrent des joueurs, ils récupèrent du physique, techniquement, ils ne sont pas suffisamment justes. C'est pas la faute d'un football de merde. Ce jeu, il est magnifique. Et pourvu qu'il reste comme ça. Parce que la vérité, c'est l'efficacité, c'est marquer des buts, ne pas en prendre. Depuis la nuit des temps, et ça existera toujours. Et tant mieux, comme ça, ça laisse sa chance à tout le monde.
Au plus petit, c'est vrai.
Au meilleur. Et c'est ça. Le meilleur peut perdre contre un plus petit. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà. J'avais envie de le dire. Je comprends que Luis Enrique a envie de passer ce message-là, le ressente comme ça. Je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que, j'espère qu'en interne, il insiste sur la qualité technique de ses joueurs qui doit beaucoup s'améliorer.
Parce qu'ils
nous l'ont montré par le passé. Ils sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré.
C'est pour ça qu'on est exigeant sans faire le gardien du Sporting, t'as raison, Benoît, c'est pas lui qui a fait le festival, rien que pour ça.
Moi je trouve que la défaite elle est presque méritée, un peu comme une sanction, tu vois, comme un rappel à l'ordre.
Attention, le football,
c'est aussi de la technique, c'est marquer des buts, c'est être efficace dans les deux surfaces. Ça fait du bien, le piqueur de rappel aussi, comme ça que les joueurs ne croient pas que leur collectif, ce qu'ils ont montré, ce qu'ils continuent à faire, c'est suffisant. Non, mais t'as raison
Dugas, et toi aussi t'as raison Benoît, parce que c'est les chiffres trahissent une énorme domination parisienne, mais dans les faits concrets, il n'y a pas eu d'énorme parade du gardien du Sporting.
On ne peut pas dire que le gardien du Sporting a fait le match de sa vie.
Ça, c'est vrai.
T'as tenté beaucoup de frappes de loin aussi, parce qu'ils ont joué avec un bloc bas, le Sporting, et ils ont joué leur jeu. Moi, la chose où j'étais surpris, c'est que je pensais que sur la première mi-temps, le PSG avait fait un travail de sape, avait usé l'adversaire. Et finalement, on s'est rendu compte que sur le début de deuxième mi-temps,
le Sporting a repris du poil de la bête.
Ils finissent
alors
mieux.
Que je pense, alors que je pensais que le PSG allait faire un, avait fait le plus dur en première mi-temps, même si t'es à 0-0, qu'ils avaient trouvé des brèches. Maintenant, je rejoins Christophe quand il dit que le PSG n'a pas été performant dans les deux surfaces. Ça, c'est un constat et c'est indéniable. Et je rejoins Jérôme quand tu dis qu'aujourd'hui, les milieux de terrain, t'as le meilleur milieu de terrain quand ils sont tous les trois ensemble. Neves, Ruiz et Vitinha, on l'a dit à maintes et maintes reprises. T'as parlé du manque de profondeur. Ousmane Dembélé aurait pu la prendre un petit peu plus. Il a souvent décroché hier. Barcola, c'est le seul qui a fait des.
C'est le seul qui fait des différences. Ouais.
Et même s'il est des fois un peu brouillon sur la finition, heureusement qu'il y a quand même de la profondeur.
Ah bah oui.
Mais on oublie que quand il manque un des trois milieux, tu n'as plus les prises c'est de profondeur que peuvent faire les trois quand ils jouent ensemble. On se voit beaucoup se projeter Ruiz, João Neves, qui se retrouvent dans des situations d'attaquant. Et là, on ne l'a pas vu.
Après, de là à s'inquiéter, moi j'entends tout ce que vous dites, les certitudes, le PSG les a dans le jeu.
Ceci dit, ils font un bon match.
Mais c'est ça, le truc, c'est
qu'en fait, font un bon match.
Dès que l'efficacité va revenir un peu, Paris va redevenir le grand Paris, en fait.
Tu sais, et Dugas et Benoît, ils le savent aussi bien que moi. Il y a des saisons comme ça où y a des choses qui te réussissent, où tu sens qu'il y a une dynamique positive de groupe, déjà à travers des bonnes performances, de la régularité, à travers des résultats aussi, parce que si tu t'as l'impression d'être bon collectivement, mais que tu perds tous les matchs, d'un moment, cette confiance,
c'est là où Jérôme, où t'as besoin d'un facteur X.
Oui.
Ouais, garçons, t'as besoin aussi d'un Dembélé auto-attaquer.
Ouais, mais faut mettre quand même un bémol. On peut pas dire qu'ils ont fait un bon match quand t'as autant de déchets techniques avec des joueurs.
Je suis d'accord avec toi, moi. Je suis d'accord avec toi.
Mais tu as dominé le match.
Non, mais bien évidemment que tu t'attendais à quoi?
Mais oui.
Face au Sporting, tu t'attendais à quoi?
Tu vas pas avoir le ballon.
Non, mais tu penses que ça suffit pour dire?
Non, mais c'est pour ça qu'on va pas non plus trop s'inquiéter après ce match.
Mais personne ne s'inquiète. Personne. Mais dire, quand on dit, ils ont fait un bon match, on a fait le match qu'il fallait, comme le dit Moussa,
c'était pas dans le vrai.
Écoutez, c'était
t'es
presque le match parfait.
Ouais, c'est vrai.
Non, je suis désolé si tu fais des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, tu seras ni champion de France, ni champion d'Europe.
Ah, le Sporting l'a fait en face.
Et t'as déjà perdu la Coupe de France. En jouant d'une façon où, en effet, parce que là, on peut repartir sur la même chose. Il y a c'était pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe de France, le Paris FC. Moi, on y était au Parc. Le PFC, ils ont pas dépassé le milieu de terrain. Ils sont venus deux fois, ils ont marqué.
C'est vrai.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Le PSG, t'es dans le vrai. Non, moi, je te dis que
le PSG. Mais la même chose. Il t'a parlé du match du PFC.
Oui, c'est vrai. Pareil.
Il en fait la même analyse. Je la comprends, son analyse. Mais je trouve, je parle d'exigence.
Mais comment on règle ces problèmes d'efficacité offensive et défensive, alors?
Non, mais ça, il a trouvé le remède de l'année dernière. Le remède l'année dernière.
Alors?
Mais je pense que l'année dernière, par rapport, et on en a parlé hier, c'était le thème. Est-ce que le PSG est en avance par rapport à l'année dernière ou quoi que ce soit? Moi, je te disais. Alors c'est pas parce qu'ils ont perdu hier que ça me donne raison. Je te disais que pour moi ils sont pas en avance, ils sont un petit peu en retard en effet, parce que collectivement, parce que individuellement, il y a des joueurs qui sont blessés, qui ont été souvent blessés et qui ont du mal à retrouver la bonne dynamique. Et ça, c'est la réalité. Et de toute façon, comme n'importe quelle grande équipe, collectivement, tu peux t'améliorer, mais individuellement, il faut que les mecs ils soient bien meilleurs. Et le constat, et là, je rejoins Dugas, quand tu as ton coach qui tient ce discours en conf de presse, il n'y a pas de problème. Certainement qu'en interne, il n'a pas le même discours. Ça, du moins, j'espère.
Sûrement, bien sûr.
J'espère. Oui,
bien
sûr. Mais n'empêche que pour la remise en question, c'est pas bon. Quand on parle que Barcola, c'est le seul qui te fait des appels dans la profondeur, mais Doué, Dembélé, ils peuvent pas le faire en première mi-temps. Pourquoi ils demandent le ballon toujours dans les pieds?
Ça, c'est sûr.
Mais écoute.
Et sauf que Luis Enrique peut pas le dire en conférence de presse d'après match. Il va pas dire, lui a été mauvais,
Luis Enrique, il aime parler tactique. D'accord, il aime. Pose-lui.
Même Doué, est-ce qu'il est obligé à chaque fois de nous faire
un geste technique? Doué, ça revient beaucoup sur le numéro WhatsApp d'RMC d'ailleurs.
Et Doué,
il faut qu'il arrête.
Et je suis d'accord, Dugas, Et le problème à ça, c'est que si Doué, tu lui dis pas, l'année dernière, pas de problème, Golden Boy, t'as gagné la Ligue des Champions, t'as tout gagné, il n'y a pas de souci, t'as été énorme depuis le début de saison. franchement, c'est le néant. Hein.
Ouais.
C'est le néant.
Donc, saison de la confirmation.
Hein. Ouais, et saison de la confirmation. T'as la Coupe du Monde qui arrive. Il a aussi des choses en tête, certainement. Beaucoup, beaucoup de choses en tête. Je pense que lui, il n'a pas été assez concentré d'entrée sur sa saison et que c'est compliqué d'appuyer sur le bouton, de dire maintenant, ouais, on est au mois de janvier.
Il y a aussi, hein. Il y a eu des blessures musculaires. Attention, tout ce qu'il a vécu en cette
Je te dis pas que c'est facile. Ouais. Déjà, ce qui était le plus dur, et il l'a montré, c'est de montrer autant de régularité et le talent l'année dernière. Et donc oui. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. Mais malgré tout, c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis critique. C'est pas critiquer pour critiquer le PSG. L'année dernière, je les ai défendus. Mais quand t'es champion d'Europe, t'es sur le toit de l'Europe, t'as écrasé tout le monde. Tout le monde. Ouais. D'accord. Et que aujourd'hui, t'as l'impression que dès que le PSG joue un match, ils peuvent se faire attraper. C'est qu'il y a des manques.
C'est sûr.
Mais parce que Giroud, pendant 6 mois, ils ont été tous les joueurs présents au même moment.
C'est vrai.
Au taquet,
oui, c'est
100%,
vrai.
Ça, tous en même temps.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
Christophe, supporter parisien au 32-16, Giroud.
Salut, Christophe.
Bonsoir, messieurs.
Salut, bienvenue, Christophe. Bonsoir. Ça va?
Salut. Ouais, ça va super.
Bon, écoute, alors, comment t'as vécu le match hier?
Non, mais moi, ce qui m'énerve dans le football moderne, enfin, ce football-là, c'est les stats, tu vois. Parce que 80% de possession, ouais. Jusqu'aux 20 mètres.
Oui, c'est vrai.
Et après, rien.
C'est ce qu'on vient de te dire.
Et tu vois, tu prends, moi, j'ai pas joué à vos niveaux, tu vois, mais j'étais gardien. Mais, putain, le mec, il fait pas une prise de balle. Et la première chose qu'on t'apprend à un gardien, c'est quand tu dégages au point, tu dégages sur les côtés. Les dégagements qu'il fait avec ses points, c'est dans l'axe. Il a pas, le mec est décisif 0 fois dans la saison. Alors, on va me parler des 3 pénaltys, ok, bon, je m'en fous en fait. Mais honnêtement, le mec, il est pas du tout. Alors, on disait Donnarumma sur les sorties aériennes, c'est une bille. Par contre, sur sa ligne, il est top. Mais dans les sorties aériennes, Chevalier, il est où? Zabarni, il a un niveau aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais peut-être de Ligue 2, hein. De Ligue 2, hein. Le mec, il est lent, il est pâteau, il a pas de technique, il a 2 pieds gauches, il a rien, le mec, il a que dalle, hein. Et tu prends Doué. Mais Doué, il nous fait du Neymar. Sauf que mec, t'es pas Neymar.
Ah ouais, ça c'est
vrai. Tu prends la balle, tu passes derrière. Hier, vous savez le gros problème qu'il y a eu? Mais Dembélé, il était quoi hier?
Ah ouais,
numéro
9, partout.
Numéro 6,
partout
numéro 8, part. Numéro 4, numéro 2.
Après, il c'est était pas quoi, le plus mauvais sur le match d'hier.
Mais non, il a pas été mauvais, mais le problème, c'est qu'il a pas, il peut pas prendre la profondeur, puisque de toute façon, on n'a pas de gars qui envoie en profondeur. Donc, il vient,
Vitinha, quand tu vois ce qu'il est capable de t'envoyer.
Mais je te parle d'hier soir. Oui, je te parle pas sur la saison. Je te dis d'hier soir. Hier soir, tu prends par exemple Warren, il fait un match énorme. Moi, franchement, Warren, je trouve qu'en ce moment, c'est peut-être le meilleur joueur
toujours pas dans les centres quand il joue à droite. Hein.
Mais voilà, mais le problème. Mais attends, Jérôme, t'as été lié. Tu peux pas t'improviser.
Là,
tu peux pas
c'est de la crème, hein.
Sans vitesse.
Centreur. Non, mais regarde, si tu mets. Hier soir, t'aurais un Hakimi. Le mec, il déborde, il centre. Dembélé, il a pas besoin de venir derrière. Il est devant. Tu vois, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on joue. Alors, effectivement, il y a plein de mouvements et tout, mais on est bon en possession.
Écoute, Christophe, les mouvements, pour moi, et je le autant l'année dernière, c'était difficilement analysable les matchs du PSG parce que ça permutait dans tous les sens et il y avait des repères et des joueurs qui étaient physiquement, et Benoît le disait tout à l'heure, ils ont enchaîné tellement de matchs, pas de blessures, tous les feux étaient au vert, que les mecs, la dynamique, c'était incroyable. Là aujourd'hui, avec les blessures, mais le côté, pour moi, Christophe, le gros problème aujourd'hui de Luis Enrique, c'est que son équipe, elle est prévisible parce que il y a moins de mouvements, parce que ça permet
moins. Ça aussi
parce
qu'il avait moins bossé tactiquement, que les matchs enchaînés, qu'il y avait beaucoup de blessures.
Rappelle-toi, moi je me souviens ce qu'a dit Luis Campos quand il est venu au mois de septembre, nous expliquer un peu la stratégie et ce que Luis Enrique voulait mettre en place pour continuer à surprendre un peu les adversaires, changer un peu les mouvements. Il nous l'a expliqué, il nous l'a dit. Ouais. Le problème, c'est qu'avec les blessures, avec tout ce qui s'est passé, plus les résultats qui étaient en dents de scie et le fait de pas dominer, archi-dominer les matchs comme ils l'ont fait l'année dernière, eh ben, il s'est dit, bon, on va peut-être retrouver une base solide, on va demander à des joueurs des trucs un peu plus simples, et puis après, on verra. Le problème, c'est qu'ils sont en retard.
Merci à Christophe.
Rappelons-nous quand même l'année dernière ce qu'on disait, enfin, essayons de nous
rappeler, parce qu'on a tous un peu la mémoire qui flanche. On disait quoi de ce Paris Saint-Germain-là? Et on était impressionné par quoi? On était impressionné par ce contre-pressing et par la qualité technique de cette équipe. Mmh. Souviens-toi le nombre de fois où on a été dithyrambique en disant, mais techniquement, mais c'est époustouflant ce que les mecs dans les, ils sont capables de faire. Là, je suis désolé.
C'est
on
pas le cas.
Pas. Ouais. Ou alors, voilà, ou alors dans un confort, parce que les mecs, ils ont peur, ils reculent. Donc, t'as le temps de.
Je vais te dire,
du gars, stop, tu perds le Bayern comme ça aussi, hein.
Allez, merci à Christophe.
Les gars, merci les deux qui sont aussi réguliers que l'année dernière, c'est Nuno Mendes et Vitinha. Très souvent, quand ils sont sur le terrain, eux, ils sont sur la lignée de l'année dernière. Les autres, bah, le niveau, il a baissé.
Et Paris retrouvera la Ligue 1 vendredi soir à 20h sur la pelouse de la JOCR. Ah, c'est le moment pour vous inspirer à l'expérience RMC. Magnifique rendez-vous, le dernier match de saison régulière du Paris Saint-Germain. Mercredi prochain au Parc des Princes, PSG Newcastle, l'expérience RMC. Vous venez assister à Roten sans flamme. Un selfie, un autographe de Jérôme Roten. Oh, ça, c'est la classe. Ensuite, direction le parc, vos deux places et vous revenez débriefer le match dans l'after. Envoyez tout de suite PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16. Dans un instant, le procès de Luis Campos, accusé de s'être trompé sur Zabarni et Chevalier. Allez, à tout de suite.
Qui accuse
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, la deuxième demi-heure, c'est maintenant de Roten sans flamme en mode Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille reçoit Liverpool, et oui, quelle affiche magnifique, on va se régaler ce soir. Je RMC que ça se passe, mais aussi.
Tu vas vivre devant l'OM,
là. Ah oui.
Ah bah on va pousser, hein. On va pousser, on est avec Benoît Costil, on est avec Christophe Dugarry, on est avec Benoît Boutron, ça va trembler à Porte Saint-Cloud, chez les Boutrons.
Je suis content de savoir que ça va pousser. Je sais pas dans quel sens chez les Roten. Avec un maillot blanc, j'espère.
Bah, moi, je suis amoureux du club français.
Très bien.
Les clubs français.
Et d'ailleurs, on va se commémorer de bons souvenirs.
Est-ce que j'en ai à faire de Liverpool, moi.
Dans un quart d'heure. Avec Mathieu Albuena qui sera dans le Halo Jérôme. Il va nous remémorer ce magnifique but, rappel 2007. À le lancement de sa carrière marseillaise, petit vélo. Crac, la
petit
frappe.
Petit vélo.
1-0, la victoire à Anfield.
Incroyable. Il n'avait pas fermé les yeux.
Ah bon, on lui demandera. On le demandera.
C'était qui, le coach?
Le coach Guéret.
Ah, c'était
hier. Eh oui, c'était. Albert Raymond se fait virer 3 jours avant. Guéret se prend l'équipe.
C'est vrai, ouais.
Il dit, je m'en fous des vedettes. J'aligne petit vélo en numéro 10.
Ouais, petit vélo et clac.
C'est
petit
fait. Vélo. But 1-0, victoire de l'OM à Liverpool. Mais tout de suite, on reparle donc des recrues estivales du Paris Saint-Germain.
RMC, Roten sans flamme.
Créer une équipe, ça veut dire c'est comme un puzzle, que les pièces y font clic.
Aucun regret sur le mercato d'été.
Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
Le procès de Roten sans flamme.
Oui, parce que Lucas Chevalier et Ilias Zabarni sont passés à côté de leur match hier soir à Lisbonne. Le gardien de but n'a pas été décisif sur l'ouverture du score et surtout il est considéré comme fautif sur le deuxième but, même si on aura l'analyse et l'expertise de Benoît Costil sur cette action précise. Zabarni, lui aussi, est impliqué sur le deuxième but. Il est éliminé beaucoup trop facilement sur son côté. Il est rentré au poste de latéral droit. Deux recrues qui ont tout de même coûté 118 millions d'euros l'été dernier au Paris Saint-Germain. Juste, je vous donne les stats de Chevalier en Ligue des Champions avec Paris.
100 balles, quoi.
Ouais, c'est ça. Les stats donc de Lucas Chevalier en Ligue des Champions. 10 buts encaissés en 6 matchs disputés. Un seul clean sheet, c'était face à l'Atalanta lors de la première journée. Sinon, c'est au moins 2 buts encaissés par match par Chevalier en Ligue des Champions sous le maillot parisien. Le procès ce soir donc de Luis Campos, accusé de s'être trompé sur Zabarni et Chevalier. Un procureur, c'est Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir, pas facile composition, mais
tu vas l'assumer.
Je vais m'y attacher.
Bon. Ouais. Deux avocats pour Luis Campos, Maître Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Costil, bonsoir.
Bonsoir.
Ah bah oui.
Et alors le verdict sera donné par Anthony. Salut Anthony.
Salut tout le monde.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'Anthony vient de Meudon, donc le fief des Roten. Donc j'espère qu'il y aura malgré tout de l'objectivité, Anthony.
Ah d'accord, on fait bosser la famille.
Heureusement que c'est pas l'auditeur précédent, parce que le procès était pipé direct.
C'est ça. Anthony, tu restes objectif. Hein.
Anthony,
oui.
On est cousins éloignés.
Bon, vous connaissez certainement. Bon, ça marche. Allons-y sur ce procès. Alors, monsieur Dugarry, allez-y sur votre propos. Pour vous, monsieur Campos s'est trompé donc sur le mercato de l'été dernier.
Alors, le football, c'est puzzle. Il faut que ça fasse clic. Ça fait pas clic. Ça fait pas clic. Puzzle, il n'y a pas puzzle.
Ça fait voilà. Mal plutôt. Ça fait pas
voilà,
clic.
Ça fait mal, ça fait pas clic. Non mais sans déconner, il a dit.
Fait clic.
Bien sûr qu'il l'a dit.
Il a dit ça. Et ben voilà, écoute, ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain. Ça fait pas clic, ça marche pas. Alors après, rien n'est jamais irréversible, pardon. Léon changera peut-être de discours, mais pour l'instant, je pense que ce soit Luis Campos ou que ce soit Luis Enrique sont déçus des performances de leurs joueurs et ne les attendaient certainement pas à ce niveau à ce moment de la saison. Je pense qu'ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux, alors que la réussite soit totale. Ça, c'est l'espoir qu'a tout le monde. C'est-à-dire, quand tu prends des recrues, t'espères que de suite, ça va être extraordinaire. Bon, il faut toujours un petit peu de temps. Là, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc, je pense qu'il s'est trompé à ce jour, à ce moment-là de la saison. Je pense que Luis Campos s'est trompé et que, pour faire une comparaison, parce qu'on a une comparaison directe avec Donnarumma et Chevalier, Chevalier montre qu'il n'est pas meilleur à ce jour que Donnarumma. Donc, à ce poste-là, je pense que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, s'est affaibli. Après, ça laisse tout espoir et toute manœuvre possible à Chevalier de montrer qu'il va atteindre l'objectif, que c'est pas un plafond de verre trop haut pour lui, qu'il est bon, qu'il a le mental, qu'il a les compétences, qu'il a pas été surestimé, qu'il a pas été surévalué et qu'il va y arriver. C'est ce qu'on souhaite tous, bien évidemment. On est tous derrière Chevalier, qui en plus un mec pour le coup, qui est un mec hyper sympa. Mais pour l'instant, il y a un constat qui est réel, c'est la réalité du football du quotidien. Et ben il n'est pas à la hauteur. Et la même chose pour ce gentil défenseur qui pour l'instant n'est pas à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. C'est la seule recrue de champ de l'équipe. Il n'est pas dans les rouages. Il est défensivement c'est compliqué. Il est pris pratiquement systématiquement dans la profondeur. En un contre un c'est compliqué. Il n'est pas polyvalent. On voit que quand il joue à droite c'est pas mieux non plus. Bon voilà pour l'instant je trouve qu'il est en dessous. Il est en dessous.
Donc
c'est pas une franche réussite ce recrutement.
Parole à la défense. Je suis un peu surpris, Monsieur Roten, parce qu'il y a eu quelques critiques de votre part sur Lucas Chevalier depuis quelques semaines. Pourquoi tenir cette position, alors ?
Pourquoi elle est simple ? Parce que je pense que quand tu es une recrue importante dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain, on parle du club champion d'Europe, avec une équipe qui a, l'année dernière... surpris tout le monde, mais écrasé tout le monde surtout, avec un collectif. Donc quand tu vis une telle année, forcément ça crée des liens dans un groupe, et que quand t'es une pièce rapportée, c'est pas facile déjà de t'intégrer. Et en plus tu les intègres, alors c'est pour ça que les deux sont dans deux cas différents. Tu intègres Chevalier dans une position de gardien titulaire qui remplace le meilleur gardien l'année dernière de la saison. Donc pas facile, en plus qui était accepté enfin au Paris Saint-Germain, mais qui était respecté, accepté et qui était aimé. Et ça, c'est la réalité. Et les gens n'ont pas forcément compris son départ. Donc ça, déjà, tu as un poids à ça. Tu remplaces, tu es un jeune gardien français. Moi, je militais pour qu'il prenne la place de Donnarumma si Donnarumma s'en allait. Donc j'étais content de le voir arriver. Après, il faut reconnaître, et c'est pour ça que je suis critique, que depuis le début de saison... On peut pas dire qu'il dégage beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, et encore moins beaucoup de talent. Moi, je suis vraiment désagréablement surpris de Chevalier, de son talent que je voyais à Lille, et que pour moi, là, il rassure personne, en fait. Et déjà, lui.
Il est procureur ou il est avocat?
Et déjà, lui, il rassure pas. Mais je pense que il est en plein doute dans tous les cas. Mais c'est pour ça que je voulais les défendre. Pour moi,
avec un avocat comme ça, il est tranquille.
Non mais Zaba, non mais
c'est un commis d'office.
Je parle de Chevalier, du gars, parce que je parle pas de Zabarni, parce que je vais pas vous dire que je regardais les matchs de Bournemouth l'année dernière, c'est pas vrai.
Ouais.
Donc Zabarni, j'imagine quand même que quand Luis Campos il décide avec Luis Enrique et de mettre 62 millions sur Zabarni, c'est que j'imagine qu'ils ont vu quand même en lui un énorme potentiel et pas ce qu'on voit depuis le début.
Regarde Beraldo.
Mais Beraldo, c'est ouais, mais
c'était un pari sur l'avenir.
Mais, non, mais Duga, Beraldo,
Beraldo,
Beraldo, Duga, c'est un échec pour moi. T'as raison. Mais Beraldo, il venait, c'était un coup de poker. Il venait du Brésil.
18 ans.
Là, Bournemouth, même si c'est pas la plus grande équipe anglaise, j'imagine qu'il a été confronté à des grands attaquants et il a été recruté pour montrer autant de force. Donc, pour moi, c'est pour ça que je voulais les défendre les deux. Okay. Aujourd'hui, c'est ultra décevant et il faut pas se cacher. Il y en a un qui aura un peu plus de temps, c'est Zabarni, parce que il a été pris pour être le super sub aujourd'hui. La charnière, c'est Marquinhos, Pacho, et il y a pas de raison de le changer. Par contre, Chevalier, en effet, il est arrivé dans la position du titulaire. Et que en effet, il y a un peu moins de temps d'adaptation, ça sera moins accepté que Zabarni, mais je vais te dire que sur la première année, des fois on a été surpris qu'il y a des joueurs qui se révèlent et qui soient meilleurs, parce que le contexte parisien fait que bah il faut tout appréhender différemment. Allez. Et je vais laisser une petite chance aux deux encore, même si pour moi, alors, avec ces deux-là titulaires, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions.
Benoît, qu'est-ce que tu rajoutes à
m'accrocher là quand même.
Vas-y.
Non, mais la question c'est Campos s'est-il trompé sur Zabarni et Chevalier? Pour moi, après 6 mois, tu peux pas porter un jugement définitif. On a deux joueurs, 24, 23 ans, un qui débarque de Lille, l'autre de Bournemouth, qui débarque dans un effet. Ils ont tout gagné l'année dernière. La question, c'est est-ce que c'est pas plus difficile justement quand tu as seulement deux recrues de s'intégrer à un effectif qui a tout gagné l'année précédente. L'autre question que je me pose, c'est qu'il y a un an jour pour jour, est-ce que Donnarumma était plus fort que Chevalier aujourd'hui?
Je me pose la question parce
qu'on parle de Donnarumma. Moi, j'adore Donnarumma. Mais Donnarumma, c'est le meilleur gardien du monde sur les 6 derniers mois, pas sur l'année complète.
Ouais,
donc ça, c'est un élément qui pour moi est important. Donc du coup, je trouve que
pas de plus de sérénité quand même que Chevalier.
Un petit peu plus, mais faut savoir que aussi Donnarumma, quand il arrive en étant champion d'Europe, mais regarde le championnat d'Europe, c'est Milan AC depuis, donc avec plus d'expérience, un bagage plus important. C'est pour ça que je vais être un peu encore indulgent avec Lucas Chevalier et avec Zabarni. Il joue dans une équipe qui est plus en difficulté que la saison dernière. Le PSG concède plus d'occasions que la saison dernière.
Et normalement, donc, le gardien devrait être meilleur.
Tu me diras quand est-ce qu'on peut le critiquer.
On peut juger. Moi, ce que j'attends, c'est que Lucas gagne Il a fait son gros match contre l'OM. On attend un gros match en Ligue des Champions et de la régularité. Mais pour moi, Campos, c'est pas encore trompé.
Anthony, qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Christophe Dugarry ou les avocats des recrues estivales?
Moi, je donnerais plus le point à Dugas. Mais par contre, pour moi, en fait, la situation des deux, elle est différente. Parce qu'en fait, ils nous les ont vendus. Ils ont été achetés pour deux raisons différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive pour prendre la place de Donnarumma, qui était considéré comme le meilleur gardien du monde. Donc, en fait, le problème, c'est que les 6 mois, il les a pas, en fait, de base. En étant recruté pour être le numéro un tout de suite, il doit tout de suite être au niveau. Sachant qu'en plus, ça se voit, il a double peine, elle vient du fait que l'équipe n'arrive pas à concrétiser les occasions, comme hier. Donc du coup, lui, il en a une à arrêter.
Il ne le fait pas.
Voilà. Par contre, Zabarni, on nous l'a vendu comme le remplaçant de Marquinhos, destiné à prendre la place. Alors, est-ce qu'il est capable de le faire sur le long terme? À voir, je ne suis pas convaincu pour l'instant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on parle de ce qu'ils font en ce moment... Zabarni,
c'est décevant.
Hier, il rentre arrière droit. Bon, je pense qu'il lui a pas rendu service en faisant ça. À un moment, il y a l'ailier qui lui met une misère sur le côté. Je pense qu'il est toujours là-bas en train de chercher son rein. Je sais pas ce qu'il a fait. Et par contre, Chevalier, va falloir vite se remettre dedans. Donc oui, plus le point du gars. Okay. Mais par contre, la responsabilité aussi, est-ce qu'il faut.
Et encore une, bam. Mais Chevalier, est-ce que
c'est fini, c'est terminé. Est-ce que vous avez implacable, d'Anthony.
Est-ce que vous avez regardé si on lui a peut-être volé sa serviette à Chevalier aussi. C'est pour ça que les gants ont glissé.
Mais par contre, le dicteur précédent qui me parle de pas bloquer la balle d'hier va trouver un gardien en monde qui va bloquer la frappe d'hier. Il doit mieux la repousser, plus forte, plus loin. Peut-être, on en discute.
Bon allez,
Benoît,
j'ai appelé Jean-Louis Tour.
Ah ben voilà. Allô Jérôme.
Micalandro m'a envoyé un message. Il m'a dit, moi je l'aurais bloqué.
Bah certainement. Allô Jérôme, dans un instant, on se remémore les bons souvenirs.
Par contre, il l'aurait relâché après. Il aurait
2007, Mathieu Valbuena avec nous. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC. Et oui, la musique, la Ligue des Champions. On est en mode Ligue des Champions ce soir. Liverpool qui se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. quel gros match. Puis il y a plein d'autres affiches aussi. On va se régaler tout au long de la soirée, comme d'habitude. On est avec Benoît Boutron, avec Christophe Dugarry et Benoît Costil. Après 19h, Benoît, on va parler de l'OM.
On va lancer ce match, ce choc entre l'OM et Liverpool. Est-ce que Marseille est prêt pour l'exploit? 32-16 pour participer avec nous. On sera avec Florent Germain en direct du Vélodrome. Également avec Julien Laurence qui nous dira tout de ces Reds qui sont en difficulté en championnat. Et puis les matchs viennent de partir, ceux qui ont démarré à 18h45, notamment ce Galatasaray Atlético qu'on va suivre avec intérêt. Mais tout de suite, c'est le ballon, Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Zenden avec Balbuena.
Extraordinaire
but. Aucun but.
Allô, Jérôme.
Et oui, le commentaire de Jean-Michel Larquet. Pour ce but mythique lors d'un Liverpool OM de 2007, Mathieu Valbuena avec nous dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Salut Mathieu.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
T'es en forme?
Salut, ça va très bien, très bien. On subit un petit, un gros rage là, mais bon, ça va, ça
c'est
va
vrai. Bon, ah bah, pour un jeune retraité, c'est pas grave, ça. T'es à l'abri.
Pas encore.
on te rappelle parce que c'est un souvenir incroyable pour les supporters marseillais.
Il y a 40 ans, t'avais mis un but de
folie. Non, mais tous les fans de foot s'en souviennent. Ce Liverpool OM 2007, un contexte très particulier. À l'époque, Liverpool, c'était 11 matchs et 0 défaite. Marseille, c'était tout autre chose, Mathieu. Avec ce changement d'entraîneur, Albert Raymond viré 3 jours avant. L'arrivée d'Eric Guéret, qui dit que tous les joueurs sont au même niveau, il n'y a plus de statut dans l'équipe, et donc toi qui te retrouves titulaire à Anfield pour ce grand match de Ligue des Champions.
Oui, on va dire que cette soirée, toutes les planètes elles étaient alignées. C'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir débuter, parce que aussi, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est vrai que Samir, normalement, aurait dû jouer, il était malade ce jour-là, et c'est vrai qu'on a eu un nouveau coach qui était Eric Guéret, qui avait 3 jours pour faire une équipe, et il m'a fait confiance, et puis derrière, on fait une grosse prestation collective, et surtout que, ben voilà, après c'est vrai que je marque ce but, qui m'a lancé, enfin ma carrière, qui a été un déclic pour moi, donc c'était une soirée extraordinaire.
Il y a d'ailleurs un but inscrit en Ligue des Champions à l'instant, c'est l'Atlético Madrid qui mène 1-0 donc sur la pelouse du Galatasaray. Jérôme, tu te souviens de cette soirée de 2007? T'as le but en tête, but magnifique quand même.
Ah ouais, ouais.
Dugan
ouais.
Nous disait tout à l'heure qu'il fermait les yeux, Mathieu, mais Mathieu, tu fermais pas les yeux, t'avais les yeux bien ouverts.
Non, Dugan, il connaît, il peut pas dire ça. Il connaît le football.
Ah mais Dugan, il tirait souvent les yeux fermés,
je
Mathieu.
Je suis spécialiste donc, des buts marqués avec les yeux fermés. C'est une marque déposée.
C'est bon ça. Non mais tu te rappelles, Jérôme, de ce but fantastique de Mathieu quand même?
Bah oui. Non, je m'en rappelle pas.
Tu te rappelles pas? Ça t'a pas marqué?
Non, je plaisante. Non,
puis même avec Captain Larky aussi, les commentaires vont avec et tout.
C'est vrai que cette soirée, bah, tu vois, elle est. Bon, et en plus, première titularisation comme ça en Ligue des Champions, forcément, tu marques les esprits et on a quand même l'impression que c'est ce match-là qui t'a fait décoller, quoi.
Mm. Non, mais c'est sûr qu'après, comme je dis, dans le football, il y a une part de chance, il y a aussi un déclic. Je pense que ça a été pour moi un déclic. Ça m'a permis de me dire aussi que je pouvais. Avoir ce niveau, j'avais très peu d'expérience avant ce match-là, de même en Ligue 1, parce que j'avais à peine 15 matchs de Ligue 1. Donc tu tombes contre un grand Liverpool dans une enceinte mythique, et c'est vrai que ce match-là m'a fait énormément de bien. Mais pour moi, j'ai toujours voulu avoir des émotions. Pour moi, le football, c'est des émotions, avant tout. Et j'en ai eu, forcément, dans ce match-là, et j'en ai eu beaucoup à l'Olympique de Marseille. Mmh. Alors, il y en a eu des moins bons, mais on va dire que, voilà. Et puis, vivre des émotions comme celle-là, encore plus quand tu es à l'Olympique de Marseille, c'est x10.
Mais tu sais, juste une chose. Moi ce but, il m'a souvent fait penser à ta carrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a été un déclic et qu'il a montré à beaucoup de gens qui ont pu douter de toi de par ta taille, de par ton jeu, de par tout ce que tu veux. Peu importe, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais ça a démontré que chaque fois que tu étais au pied du mur, tu arrivais à sortir quelque chose de tes pieds, d'un chapeau magique, et tu arrivais à faire la différence, et tu as montré tout au long de ta carrière, Mathieu, et moi je retiendrai ça de toi et de ta carrière, que chaque fois qu'il y a pu y avoir un doute autour de toi, et je pense aussi à un garçon comme Olivier Giroud, t'as répondu présent et t'as montré que t'étais un grand joueur, parce que les grands joueurs, c'est dans les grands moments qu'on les voit, et c'est souvent très important. Et moi, j'ai suivi, alors après t'es bordelais, donc forcément je t'ai suivi un peu plus que les autres, Mais ta carrière, moi, pour moi, elle a commencé à ce moment-là. Et à chaque fois, des événements se sont répétés lorsqu'il y a pu y avoir un doute autour de toi. Est-ce que ce déclic et ce moment, il t'a servi à ça, justement, à te dire, ouais, mais c'est pas grave, j'ai connu des moments beaucoup plus difficiles et je vais y arriver à chaque fois et je vais montrer qui je suis.
Après, ça a été tout au long de ma carrière. On va dire qu'on a toujours émis des doutes parce que, tu sais, du gars, quand tu es, je sais pas comme toi, mais toi, t'es un grand élancé, t'étais doué techniquement. J'étais doué techniquement, mais j'avais pas cette morphologie-là, peut-être du haut niveau. Et c'est vrai qu'on a toujours douté de moi dans cette capacité à pouvoir être bon et de continuer dans la durée et surtout à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que on a toujours émis des doutes. C'est, quand tu vois que je fais quand même beaucoup plus de 300 matchs à l'Olympique de Marseille, ouais, ça veut dire que j'ai pas été quand même une chèvre, tu vois. Ouais, donc, ça, je pense que tu peux pas montrer autant une régularité dans un club comme celui de l'Olympique de Marseille et d'avoir fait plus de 300 matchs. Maintenant, après, si on regarde bien, mon ratio but passe décisive, il a pas été fou à l'Olympique de Marseille, mais je pense que moi, pour moi, le plus important, c'est d'avoir duré. J'ai été performant. J'ai forcément gagné des titres parce que c'est ce qu'on retient.
Et c'est ça, t'as raison, Mathieu, bien sûr.
Et pour moi,
et t'as mis un doublé à Ben Costi.
Pour moi, le football, ça, c'est pour moi, c'est les émotions et d'avoir vécu des émotions incroyables. Bien évidemment, j'en ai aussi vécu dans d'autres clubs, de par aussi bien évidemment l'Olympiakos, mais d'avoir vécu ces moments incroyables à l'Olympique de Marseille en gagnant des titres et bien évidemment jouer la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Mais Mathieu, moi je voulais tu sais, moi,
chaque fois qu'on est invité, il a mis un doublé à Ben Costi,
c'est vrai.
C'est que j'ai fait beaucoup de matchs. C'est que j'ai joué beaucoup, Christophe.
Une capacité de relancer les attaquants.
Écoute,
vous êtes dur.
Il est généreux, il est sympa, il est pas susceptible.
Benoît est généreux, il donne. Voilà.
Mathieu, là on est à plus de 2 heures du coup d'envoi de Marseille-Liverpool. Mathieu, si tu avais un conseil à donner aux Marseillais là, comment on fait pour battre Liverpool en Ligue des Champions? C'est de l'intensité à bloc, c'est de la solidarité. Quels sont les meilleurs conseils pour les Marseillais ce soir?
Non, je pense quand tu
fermes les yeux.
Quand tu joues des matchs comme ça, tu dois embraser le public, tu dois l'emmener avec toi. Je pense que la motivation, t'as même pas besoin que le coach te le dise parce que tu l'as, je pense, naturellement. Ah oui. Mais je pense que aujourd'hui, on n'a pas le même Liverpool que les années précédentes, même si l'année dernière, ils ont fait une grosse saison. C'est plus le même Liverpool. On a vu qu'ils étaient quand même en difficulté cette saison aussi, qui prenaient quand même pas mal de buts aussi. Maintenant,
tu les vois favoris, toi, l'OM, ce soir?
Je dirais pas favoris, mais je pense qu'ils peuvent rivaliser, ils peuvent gagner. Je vois bien, moi, une victoire de l'Olympique de Marseille parce que je pense qu'ils ont les atouts. Je pense qu'ils ont les atouts.
On le souhaite.
Voilà, ils ont les atouts, ils ont des individualités qui peuvent marquer à tout moment. Je pense bien évidemment, et on le pense tous, à Greenwood. Mais le danger quand même peut venir de partout. Après, c'est vrai qu'une bête blessée comme Liverpool, et je pense que Liverpool, voilà, ils savent très. Moi, je me rappelle quand on a gagné forcément 1-0, le match retour était très compliqué pour nous. Ça reste un grand club et il faut faire attention quand même. Mais je vois bien l'Olympique de Marseille gagner ce soir.
Mathieu, un grand merci d'être venu.
Un grand merci, mais juste une question. Tu as marqué 2 buts incroyables dans des périodes pas faciles. Donc ce but à Liverpool et ce but à Dortmund aussi avec ton papa Deschamps sur le banc. Lequel tu retiens en premier?
Ce que je retiens en premier, forcément, c'est celui-là de Liverpool parce que c'est mon premier en Ligue des Champions. Et après, vu le contexte, un nouveau coach qui m'a fait énormément confiance, qui m'a beaucoup aidé pour lancer ma carrière comme Eric Guéretz.
Après, on a une pensée pour lui d'ailleurs, Eric Guéretz.
Après, c'est vrai que ce but contre Dortmund est on va dire important parce qu'il nous qualifie pour ses huitièmes de finale. Mais je préfère mettre avant entre les deux. Je préfère mettre mon premier but de Ligue 1 qui permet à l'Olympique de Marseille d'être en Champions League sur ma première année contre Saint-Etienne.
Bravo Mathieu.
C'est le premier but, on s'en souvient tous, tu vois.
Merci Mathieu d'être venu. Bonne soirée à toi, bon match ce soir.
Bon courage Mathieu.
Et comme dirait Jérôme, allez l'OM.
Allez, je t'embrasse.
Pour ce soir, OM Liverpool, 21h sur RMC. Ouais. Merci Mathieu Valbuena et on va lancer ce choc dans un instant sur RMC.
On a hâte.
Est-ce que l'OM est prêt pour l'exploit? Florent Germain dans un vélodrome en fusion. Julien Laurence pour tout nous dire des Anglais. On va se régaler, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième heure de Rotten sans flamme. Et là, on va se projeter, se lancer sur la Ligue des Champions, sur le match olympique de Marseille ce soir contre Liverpool à 21h. En intégralité, comme tous les grands matchs sur RMC, bien sûr. Et là, on se projette, on se lance sur ce match avec la compo qui va pas tarder à arriver. On est avec Benoît Boutron, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil. On a passé une excellente première heure. On remercie Mathieu Valbuena et on le félicite encore de sa carrière, même si elle n'est pas finie.
Doublé contre Ben Costil, incroyable. Finie. Magnifique.
Ah bah, il joue encore, c'est beau. Hein.
Il joue encore, et la passion du foot, match, bien sûr.
Ah ouais. Oh, il avance plus là.
On aura un grand quiz à 19h45, tous contre Rotten, avec un magnifique cadeau. Un an de café saveur noisette, le temps des cerises. C'est une maison de café qui vous propose son irrésistible café.
Pas reçu encore le.
Adapté à votre mode de préparation. Si tu veux, c'est du café en grain ou moulu, une capsule ou une dosette. Comme tu veux, c'est livré directement chez toi, Jérôme. Pour remporter un an de café saveur noisette, le temps des cerises, vous appelez le 3216, touche 4, vous envoyez quiz par SMS au 7-32-16. On parlera de Monaco à 19h30 dans la VAR de Rotten sans flamme, la crise profonde à l'AS Monaco. Est-ce que Thiago Scuro doit s'en aller? On sera avec Maxime Tillette pour les toutes dernières infos au lendemain de cette défaite 6-1 à Madrid. Mais tout de suite, on lance donc ce choc OM Liverpool parce que Duga y croit d'une dure comme fer.
Bien sûr, j'ai envie de m'enflammer. Ils sont en train de vivre le meilleur.
Paixão,
enfin, De Zerbi est inspiré.
Paixão, qui va frapper. Oh, Paixão!
J'ai trouvé une identité de jeu très forte sur ce match-là.
Et Sangliud! Et 3-0 pour
moi! Quand les bons moments, ils sont là, c'est magnifique, c'est exceptionnel.
Et le but pour Pierre-Emerick Aubameyang! 4-0 pour l'OM!
Marseille a dominé de la tête et des épaules, techniquement, physiquement. Tout était bien en place. J'ai trouvé des Marseillais très bons.
Aubameyang, allez,
De Zerbi a été excellent. Je suis ravi de le dire.
Premier poteau, Aubameyang, but.
J'ai enfin trouvé un OM à la hauteur de son ambition, comme j'ai pu le retrouver, que ce soit en première mi-temps face au Sporting, que ce soit face à l'Ajax.
La soirée, c'est sur RMC que ça se passe.
Et tout cela est réalisé sans trucage. Vous avez bien entendu les propos de Christophe Dugarry. Cette affiche de rêve au Vélodrome ce soir.
Tu vois, j'en dis du bien de l'OM.
Exactement.
Moi,
j'en doute pas. Marseille reçoit Liverpool, champion d'Angleterre en titre. Marseille qui assurerait sa qualification pour les barrages en cas de victoire. Marseille qui aborde ce grand rendez-vous avec confiance, des prestations abouties sur les derniers matchs. Et en face, un Liverpool qui est dur à cerner. Quatrième de Première Ligue, 4 nuls consécutifs. 11e de la phase de Ligue, des Champions. Une doublette magique avec nous ce soir pour en parler. Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous.
Et Julien Laurence à tes côtés, drôle de dame anglaise. Salut Julien.
Il est plus élégant que moi. J'avoue, il est plus élégant.
Salut Benoît, salut à tous.
Mais toi, qu'il est plus élégant. Il est leader. Il est leader de Ligue des Champions. Il est leader de Première Ligue.
Avec Arsenal.
Non, mais il écrase tout le monde avec Arsenal. Non, mais c'est fou.
Il nous prête des joueurs.
Et voilà, en plus. On en parle.
Je vous envoie du talent. Je vous envoie du talent parce que Dugarry est jamais content. Donc j'envoie du talent un petit peu.
Voilà, justement. On en parlera dans un instant.
Par contre, t'as rangé le maillot du PSG, Julien, ce soir quand même.
Oui, là, je fais profil bas.
Ah oui, là, c'est pas assumé le maillot Opel. Ah,
mais je porte bonheur, j'étais là pour Newcastle.
C'est vrai. Bon, Flo, est-ce qu'on aura un OM ambitieux face à Liverpool ce soir?
Oui, ambitieux, je pense, déterminé, enthousiaste. C'était les termes de Roberto De Zerbi hier, parce qu'il veut un mix, ça, il le répète souvent, de confiance en soi, mais aussi d'humilité, parce que c'est quand même un grand club qui se déplace, 6 Ligues des Champions, un maillot mythique, celui des Reds de Liverpool. Donc, cette confiance, il l'attire de certains gros matchs où l'OM, c'est vrai, a été au rendez-vous. Il n'y a pas toujours eu des victoires, mais contre le Real, Marseille avait quand même sorti un beau match à Bernabeu. C'est pas le cas de toutes les équipes françaises. Il y a eu également le gros match contre le PSG avec le trophée des champions perdu, la victoire ici au Vélodrome. Bon, on peut rajouter Newcastle qui avait été un match d'une haute intensité, même si Newcastle c'est pas l'ogre européen que citait Roberto De Zerbi, mais malgré tout il a des références, il veut être à la hauteur des grands, il dit que l'OM est capable de battre n'importe quelle équipe, même s'il n'est pas sûr à 100%, il peut pas l'affirmer que l'OM va battre Liverpool, parce que ça reste un gros match à disputer dans une grande soirée européenne. C'était les mots hier écoutés de Pierre-Emile Højbjerg.
de club extraordinaire, de la passion, de l'histoire, mais aussi dans un stade et dans un cadre extraordinaire. Je crois que tout le monde qui viendra avec un sourire, et j'espère aussi que tout le monde avec le maillot et le sang marseillais partira aussi avec un sourire.
Voilà, ils pensent aux 67 000 supporters, un match à guichet fermé. Le club nous dit qu'ils auraient pu remplir deux stades Vélodrome, tellement les demandes étaient importantes. Parcage rempli du côté des Anglais, 3300 fans de Liverpool. Et des tifos qu'on ne va pas dévoiler. Pendant la conf de Liverpool, hier, j'ai assisté à quelques répétitions pour l'animation visuelle en virage nord notamment, où ce sera un tifo 3D assez spectaculaire. Et puis tout le virage sud sera recouvert également d'un tifo. Les supporters préparent ça depuis au moins 15 jours dans le parc Chano qui est juste à côté. Donc l'avant-match sera aussi à voir et sera vibrant.
Est-ce que l'OM est prêt pour l'exploit à 32-16 pour participer avec nous, Jérôme? Est-ce que tu y crois pour l'Olympique de Marseille?
Écoute, tous les feux sont ouverts pour l'Olympique de Marseille. Et quasiment pas de blessés.
Emerson quand même, un forfait de dernière minute, ça c'est un coup dur.
Ouais. C'est pour ça que j'ai dit quasiment pas de blessés. C'est sûr que c'est un coup dur par rapport à ce qu'il a apporté depuis le début et dans la fameuse équipe type que moi je réclamais sur ce genre de match. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois la dynamique de l'Olympique de Marseille, la façon de jouer, j'ai trouvé, et on l'a dit, le dernier match contre Angers, était très solide, très très solide, surtout sur l'ensemble, même si quand tu mènes par 4-1 à la mi-temps, t'as un petit relâchement en deuxième mi-temps, mais malgré tout, l'entame était bonne, l'état d'esprit, la façon de essayer de marcher sur son adversaire. Moi, c'est comme ça que j'attends l'Olympique de Marseille, comme ça a été le cas contre le Paris Saint-Germain au Trophée des Champions, un Marseille conquérant qui va de l'avant, qui presse, qui prend des risques, et puis après offensivement, qui fait preuve de talent, de créativité. Alors c'est souvent Greenwood en effet qui est le détonateur comme ça. On attend que les autres se mettent un petit peu au diapason, que ça soit Gouiri, que ça soit Traoré ou Pachao si c'est lui qui joue. J'ai plus de doutes sur Pachao, vous le savez, mais Traoré, j'aime ce qu'il fait depuis qu'il est là. Écoute, et puis un milieu de terrain qui est conquérant et qui est solide et qui rassure aussi la défense. Donc, si c'est le cas, l'Olympique de Marseille a toutes les chances, si tu veux, de faire mal, d'essayer de bousculer. Ils vont bousculer cette équipe de Liverpool. Après, c'est pas parce qu'ils font un match. Moi, j'espère les voir comme ça, avec cette générosité-là et cet état d'esprit-là. Derrière, Liverpool est totalement capable, même avec ces arguments-là et ces ingrédients-là du côté marseillais, de venir gagner au Stade Vélodrome. Liverpool, ça reste une grande équipe. Ils sont en difficulté avec des grands joueurs. Donc, c'est un gros match.
Tu veux voir le même OM que face au PSG, quoi. C'est ça.
J'espère voir le même OM que le match aller contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. La même entame de match et le match au Trophée des Champions. C'est des matchs de très haut niveau. Et pas un OM comme ça a été le cas sur la plupart des matchs de Ligue des Champions à domicile. Ouais.
Voilà, et pas un OM timoré, parce qu'on a trop vu ça en début de rencontre souvent. Et si l'OM se lâche pas ce soir quelque part, quand vont-ils se lâcher? Parce on sait qu'en cas de victoire ils sont qualifiés, mais qu'en cas de contre-performance rien n'est terminé, qu'ils peuvent rattraper énorme. Le coup à Bruges la semaine prochaine. Donc évidemment la pression, la passion, tout sera au rendez-vous. Mais je veux dire, Marseille doit jouer avec ambition.
Tu dois emballer le match, tu vois. Quand tu nous parles des supporters, tout ce qu'ils ont mis pour préparer cette rencontre, on sait que le spectacle, il est aussi dans les tribunes et ils seront au rendez-vous. Bon. Tu dois les emmener, tu dois te servir de ça. Si tu ne te sers pas du Stade Vélodrome aujourd'hui, au moins sur l'entame de match, mais tu vas le faire quand?
Duga,
c'est clair.
Est-ce que l'OM est prêt pour l'exploit?
Je pense que tous les voyants sont ouverts. Effectivement, la confiance est à son maximum. Voilà, l'OM sort de trois matchs de grande qualité. Alors on va me dire, c'est Angers, c'est Bayeux, oui, ok, mais il faut quand même, c'était quand même de grande qualité malgré tout ce qui, la copie rendue était très bonne. Face à Paris, c'était très très bon aussi. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a pris sa dose de confiance. Un seul absent. Voilà, je pense que l'OM a pratiquement retrouvé tous ses joueurs et pratiquement son équipe type à un joueur près. Donc j'ose espérer que ça n'entamera pas trop l'équipe et son potentiel. Mais moi, sincèrement, j'attends beaucoup de ce match. J'attends beaucoup de ce match, j'y crois. Je suis très optimiste. Je pense que plus que jamais, c'est le match où les mecs doivent se faire plaisir, quoi. Voilà, moi, si j'étais coach de cette équipe, je dis, les gars, prenez plaisir, jouez, tentez des choses. Voilà, n'ayez pas peur, régalez-vous. Voilà, comme l'a dit Flo, il y a pas grand chose à perdre en définitive. Même un nul, ça serait une belle performance. T'as aucune obligation de gagner. Sincèrement, c'est le meilleur moment pour affronter cette équipe de Liverpool qui est pas toujours en grande forme. Il faut aller les bousculer, il faut aller les chercher. L'OM est capable d'être très bon face aux meilleures équipes. Donc voilà, moi je suis optimiste ce soir et j'ai vraiment envie d'y croire. J'attends beaucoup de ce match.
Ben Costil.
Ah oui, mais clairement. Après, un Liverpool pas très bien, mais qui perd pas quand même depuis 12 matchs. Hein. Faut le signaler quand même. Mais c'est vrai qu'on a envie de s'emballer ce soir sur une affiche comme ça, que le Vélodrome soit chaud bouillant. Après, bon, même s'ils ont fait des grosses performances dans le contenu ces derniers temps, et je trouve qu'il leur manque un deuxième absent. Enfin, ils ont un deuxième absent, qui est Naïef Aguerd, qui pour moi est leur meilleur défenseur.
Ah oui.
Donc ça compte aussi. En plus, Demerson qui est l'absence surprise entre guillemets de dernière minute. Mais en tout cas, il y a tout pour y croire pour Marseille et de faire le gros match encore une fois chez eux après Paris. Mais voilà, il y a peut-être un peu de frustration aussi par rapport au trophée des champions. Donc qu'ils aillent faire le match qu'ils méritent de faire et qu'ils nous fassent vivre un grand match.
Le sujet, c'est quelle organisation.
C'est ça. Est-ce qu'on a des infos?
Quelle est l'équipe type? Quelle est l'organisation type? C'est ça le vrai sujet.
Bon, l'absence d'Emerson, elle a forcément contrarié les plans parce que lui, il était titulaire. Il s'est blessé à la cuisse, on le rappelle, hier à l'entraînement. Donc, hier soir, voilà, l'ambiance était un petit peu morose par rapport à cela. Donc, la tendance, c'est que Timothy Weah glisse à gauche. On verra si ça se confirme. Bon. Parce que Murillo devrait être titularisé, du coup. Hein, c'est quand même la tendance à droite. Weah pour jouer ce rôle hybride où parfois il est offensif et parfois il vient s'ajouter à une défense à 4 pour cette ligne de 5. Donc avec Medina, Valerdi, Pavard. Bah en fait, Weah, lui, c'est le facteur X. C'est-à-dire que toutes les conférences de presse, quasiment avec Roberto Zerbi, on se taquine un peu sur le système parce que lui, il dit qu'il n'a joué qu'une seule fois cette saison à 5. Ce que j'accepte pas comme remarque de Zerbi parce qu'en fait, on a tous vu qu'il y a eu plein de matchs où ils étaient sur une ligne de 5. Donc alors peut-être qu'on comprend plus rien au football ou que je suis dépassé, je sais pas. Mais en tout cas, lui estime que Weah n'est pas un défenseur.
Alors, attention à toi.
Ouais, je sais. Mais bon, voilà, donc ce sera tantôt à 4, tantôt à 5. Alors. Et puis après, pour le reste, Højbjerg, après, il y aurait Kondogbia, on verra si ça se confirme. Et puis les hommes en forme devant, notamment.
Tu vois pas un Medina décalé côté gauche, donc c'est pas la tendance. On verra ce que ça donne.
Non, mais si tu as la compo que je te donne avec Weah un cran plus haut, Medina sera, quand Weah est offensif, sera d'accord. Sur le côté gauche. Donc en fait, oui, Medina va se décaler probablement là où était Emerson de temps en temps.
Julien Laurence, ce match et l'importance de ce match pour Liverpool, qui est moyen depuis plusieurs semaines. Il y a pas mal de pression sur Arne Slot, ça ne perd plus, mais ça ne gagne pas beaucoup non plus. Est-ce qu'il est sous pression, le coach, et est-ce que c'est une rencontre cruciale pour les Reds?
Alors crucial, non, parce que un peu comme l'OM, ils jouent Karabag à domicile le prochain match et ils devraient gagner. Points, c'est ça.
Oui.
Voilà, ouais, ils devraient gagner, ça devrait passer quand même. Mais dans la forme actuelle, on va dire, dans ce qu'ils ont pu faire depuis ces dernières semaines, même si ça va un petit peu mieux, Ben le disait tout à l'heure, 12 matchs sans défaite, même s'il y a les 4 nuls de suite qui font un petit peu tâche, parce que quand tu fais match nul contre Burnley à domicile, même si t'as dominé, même si t'as eu beaucoup d'occasions et que t'as juste été inefficace devant le but, tu peux pas te permettre de perdre 2 points
contre
Burnley.
C'est parce que c'est un jeu de merde. En fait.
Oui, ça doit être pour ça, exactement. Ça doit être pour ça. Même si Slot, je pense, n'utiliserait jamais ce mot-là. Donc c'est important, plus je pense, pas forcément pour la qualification et le classement en lui-même, mais plus pour leur forme, aller chercher encore cette constance et cette consistance qu'ils ont plus finalement. C'est très inégal dans ce qu'ils produisent, ça peut être très bien parfois, ils peuvent assez bien défendre contre des grosses équipes, on l'a vu Arsenal et le 0-0 d'il y a une dizaine de jours, et puis parfois c'est fragile, c'est déséquilibré défensivement, ils sont un peu à la rue, c'est mal aligné. Encore une fois, il n'y a pas Konaté ce soir, donc c'est Van Dijk et Joe Gomez qui seront les deux défenseurs centraux sur les côtés des latéraux. Si c'est Frimpong et Kerkez, c'est très très offensif, bien trop offensif pour un match comme ce soir par exemple. Donc il pourrait mettre Robertson à gauche mais qui a plus les jambes d'avant, donc il y a plein de
il y aura ça là ou pas, Julien, à ton avis?
C'est la grande question, on sait pas. Il est de retour dans le groupe, ça oui, ça fait quand même 6 semaines qu'il a pas joué. Moi j'ai du mal à croire qu'il serait titulaire pour un match pareil ce soir, alors que ça fait 5 semaines qu'il est pas là et que l'équipe quand même, faut le reconnaître, tourne mieux offensivement, on va dire, avec les joueurs que Slot met, il y a plus de contrôle quand il n'est pas là que quand il est là. Donc, à voir. Après, si tu le fais rentrer à l'heure de jeu, c'est bien aussi.
En tout cas, Benoît, juste un mot, la conf de presse d'hier de Liverpool, une nouvelle fois, m'a confirmé ce que je répète, c'est que nous, les journalistes français, on est des enfants de cœur, parce que des fois, il y a des questions qui vont droit au but. Bon, notamment, un journaliste qui a demandé quand même à Arne Slot s'il il avait eu que Xabi Alonso au téléphone pour prendre quelques conseils éventuellement sur ses joueurs. La réponse a été, elle est un peu déconcertante, votre question là. Mais bon, ça m'a fait sourire. Et ça prouve bien ce que dit Julien, c'est qu'il y a quand même un petit parfum de pression et d'équipe et de club un peu déstabilisé par les résultats.
Alors, ça tombe bien que vous soyez là tous les deux, parce qu'on va parler un peu de l'actualité mercato de l'OM. Il y a deux recrues à Marseille et Julien peut nous aider pour les deux, parce que l'une d'entre elles est une pépite d'Arsenal et l'autre, c'est le frère jumeau de Timber qui joue à Arsenal. Donc, Flo, est-ce que tu peux déjà nous donner les infos mercato qui concernent l'OM, s'il te plaît?
Ouais, Noaneri, c'est pas encore officiel, mais on se dirige vers un prêt sans option d'achat. Donc il y aura un petit billet dont le montant n'est pas encore très clair, mais ce sera autour de 2 millions d'euros plus des bonus. J'ai entendu Julien en parler.
Noaneri, c'est un prêt sec, prêté sec, prêt sec et
sec
pas d'option d'achat.
Mois. Voilà. Pour que lui ait du temps de jeu et que l'OM en bénéficie sur cette fin de saison. Alors ça fait un peu parler les supporters de
500 000 euros par mois.
Ah bah c'est ça, c'est une opération financière tout de même pour l'OM.
500 000 euros par mois, c'est beaucoup quand même.
Oui, bah ça reste effectivement un petit investissement. Et concernant Timber, qui est arrivé aujourd'hui à Marseille, à Marignane, là, en tout début d'après-midi, c'est pour le coup un contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en juin 2030. L'OM voulait identifier très clairement un manque de volume de jeu. Il voulait un profil un peu box-to-box, comme on dit. Donc c'est vrai que Timber semblait faire l'affaire. On est sur un transfert estimé à 4 millions d'euros, 3,5 plus des bonus qui peuvent aller à 4,5 millions. Il était en fin de contrat en juin, hein, donc évidemment il y avait beaucoup de concurrence pour ce joueur. L'OM est très satisfait de l'avoir convaincu de venir à Marseille, et Arne Slot qui l'a connu en a dit que du bien hier, donc c'est un joueur qui a priori devrait faire du bien à l'entrejeu marseillais.
Jute, t'es convaincu toi par Noaneri, hein, tu nous dis alerte, très bon joueur.
Moi, les deux déjà, hein. Je pense que c'est deux très jolis coups que l'OM a fait. Noaneri, c'est sincèrement, c'est un petit génie, il n'y a rien d'autre.
Et pourquoi il joue
rien
pas,
d'autre à dire dessus. Parce que
l'année dernière, il jouait.
Oui, il jouait parce que tu n'avais pas Madueke, par exemple, qui est arrivé. Le recrutement de cet été-là, là.
Donc, Madueke, si lui est un génie, Madueke, c'est quoi alors?
C'est un international anglais déjà chez les A. Noaneri, c'est que chez les jeunes. C'est pas la même chose. Mais je suis là où je suis d'accord avec toi, où je te rejoins, c'est que je pense qu'il aurait pu jouer plus, qu'il aurait peut-être même dû jouer plus, et que le prêt est évident du côté d'Arsenal, du côté du joueur aussi, parce qu'il a besoin de jouer, surtout à son âge. Et pour l'OM, sincèrement, à la recherche d'un numéro 10 qui effectivement, pour l'instant, les joueurs à disposition de Deserbi ne le satisfont pas pour ce qu'il cherche, c'est parfait. Sincèrement, c'est un pied gauche magnifique, il est élégant, il voit le jeu très bien.
Non, mais c'est vrai, mais t'as raison. Moi, l'année dernière, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Il a quelque chose dans le pied, ce gamin, ça c'est sûr. Après, dans le contexte, moi, c'est plus la formule, le prêt comme ça, payant, mais sans option d'achat, avec t'es obligé de le faire jouer quand même. T'as quand même
dans c'est un quoi club... cette histoire qu'ils sont obligés de lui faire jouer un certain nombre de matchs?
Ouais, sinon il y a une pénalité.
C'est vrai, ça, Flo, on a les infos ou pas?
Faut qu'on...
Ouais, c'est ça ce qu'on m'a dit
aussi. Oui, effectivement. L'OM s'engage. Tu sais, pour Hendrick à Lyon, il y a un peu aussi carotte de payer un petit peu moins si l'OL ne le fait pas jouer. Donc, c'est une tendance qui se fait dans certains clubs, même si on n'a pas encore les détails du nombre de matchs. Mais effectivement, il y a cette carotte de le faire jouer pour justement diminuer un petit peu le transfert et ce prêt sec,
juste, Flo,
sans option d'achat, on le rappelle.
Est-ce que le dossier Abdelli est décoré corrélé de ces deux dossiers-là, ou est-ce que l'arrivée de Timber ça bloque un peu le dossier Abdelli?
Non, surtout l'arrivée de Noaneri, non, pour
Timber aussi, mais bon, quelque part Abdelli, en gros, l'OM le veut toujours. Lui, il a toujours cette envie de venir à l'Olympique de Marseille. Là, par contre, où ça peut se décanter, c'est uniquement s'il y a des départs. C'est pour ça que Angel Gomez a été très clairement invité à trouver un autre club. Bon, on le savait, on l'avait dit depuis la fin décembre déjà, hein, que l'OM avait quelque part acté cet échec. Moi, je peux vous dire que Matt O'Reilly, il est descendu très clairement dans la hiérarchie depuis quelques semaines, et que si l'OM lui trouve une porte de sortie, ils peuvent éventuellement envisager de casser le prêt. Alors, on sera toujours sur cette critique de dire que l'OM, au bout de 6 mois, remet tout en cause et que
non, mais c'est bien de reconnaître ses erreurs tout de suite.
Mais voilà, que c'est quelque chose qui est très totalement assumé. En tout cas, Mehdi Benatia l'a souvent répété à RMC ou ailleurs, de dire nous, si au bout de 6 mois on se rend compte que le joueur fait pas l'affaire en termes de qualité ou d'état d'esprit, mais aussi de capacité à encaisser le contexte, l'OM, etc. S'ils voient que c'est voué à l'échec, bon bah ils prennent une décision. Alors Matuidi, c'est pas encore le cas, même si je répète, il fait un petit peu moins l'unanimité qu'il ne le faisait en tout début de saison.
Alors, merci Flo.
Donc, s'il y a des départs, Abdelli, je pense que ça peut se réveiller à nouveau.
Merci Julien. Merci, juste profitons des 2-3 minutes qui nous restent pour parler de l'OM pour une sorte de mise au point dans Rotten sans flamme, parce que vous le savez, parfois le board marseillais est un peu énervé par les critiques qui sont émises dans cette émission Rotten sans flamme. Tous les deux, vous avez été interpellés,
pas de Zerbi, il a dit qu'il n'écoutait pas.
Ah bah oui, voilà. Jérôme et Dugas, vous avez été attaqués par l'ancien joueur italien Antonio Cassano, donc ce week-end.
Moi, je l'ai invité.
Salut, on l'embrasse. Il est le bienvenu. Maurice, participer à Rotten sans flamme quand il veut. Mais la petite histoire, c'est donc que Roberto De Zerbi a participé à une émission Twitch et sur les réseaux sociaux avec Cassano, qui s'appelle Viva El Football, où il a parlé justement des critiques françaises à son encontre, notamment les critiques que tu peux émettre, toi, Christophe. Et je vais juste donner la déclaration donc de Roberto De Zerbi à ton propos. Les critiques de Dugarry, je me suis entraîné avec lui à l'AC Milan plusieurs fois, donc je ne sais pas.
Ah, en plus,
en fait, ça m'agace. Quand il commence à parler avec présomption, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football. Dugas, tu voulais juste prendre quelques secondes pour lui répondre et me donner le fond de ta pensée, quoi.
Écoute, lorsqu'on parle football, comme il le dit, on parle tous avec présomption. Je n'ai jamais prétendu détenir la vérité et je respecte ceux qui pensent différemment de moi. Je dis juste les choses avec conviction et passion. C'est pour ça qu'elles peuvent parfois paraître un peu péremptoires. Personne ne détient la vérité absolue et l'épreuve absolue de ce qu'il avance. Aujourd'hui, il me reproche de parler avec présomption parce qu'il ne retient que ce que je dis de mal sur lui. Mais lorsque je dis du bien, parce que j'en dis aussi, il faut quand même le reconnaître, je parle aussi avec présomption et sans preuve absolue. Mais à ce moment-là, il me le reproche pas comme par hasard. Donc, après, même si je le trouve parfois agaçant en conférence de presse, je n'ai absolument rien contre lui personnellement. Voilà. Mais comme je l'ai dit hier, je ne me trouve pas dur avec lui. Je me trouve exigeant. Et on est exigeant qu'avec ceux que l'on attend et on espère au plus haut niveau. C'est tout. Il a été présenté et espéré comme un futur top mondial. Quand il est arrivé au club, c'est un honneur qui lui a été fait par tous les Marseillais. Faut qu'il s'en réjouisse et qu'il le prouve. En ce qui me concerne, je te cache pas mon poulet, après 18 mois, il ne m'a qu'en toute petite partie convaincu, mais il lui reste encore au moins 6 mois et je lui souhaite du fond du cœur et sincèrement d'y arriver autant pour lui que pour le peuple marseillais. Même si parfois certains Marseillais ont pu penser que je ne les aimais pas alors que j'ai porté leur maillot, ils se trompent. Je ne me suis jamais satisfait ni réjoui des échecs de l'Olympique de Marseille. Voilà, je leur souhaite le meilleur. Comme pour le coach, je ne suis pas dur avec l'OM, je suis exigeant, tout comme ils l'ont été pendant 2 ans avec moi lorsque j'ai porté le maillot de l'OM. Et je pense que le mot exigence a toujours été associé à l'OM et à ses supporters et doit l'être encore et encore. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de porter ce maillot parce que ça a été une chance. On m'a toujours parlé d'exigence quand j'étais là-bas et je continue à juger cette équipe et cet entraîneur avec exigence. C'est tout. Après, on peut me le reprocher, mais je ne tiens pas la vérité. Donc, qui se rassure, j'ai rien contre lui personnellement, notre ami de Zerbi.
Vous êtes tous les deux des passionnés.
Et Flo, continue le travail de SAP. On veut organiser la rencontre.
Il a dit qu'il venait. Et dire que tout ça serait de l'oreille en un repas.
Mais c'est sûr.
Un repas passion, une émission derrière. Ah
oui, bien sûr.
Choisissez votre restaurant, on se charge.
La pizza du Meco.
La cassa. La cassa du Meco.
Alors vous n'allez pas y aller avec l'émission Rotten sans flamme, je vous le dis.
Attends, cassa du Meco. Pourquoi pas? Attends.
Alors, sa pizza dégueulasse, là, j'y vais pas.
Qu'est-ce que tu dis? Ça a déjà fait le plein aujourd'hui, là.
Un choix emmental grillé, je sais pas quoi.
Pizza avec de l'emmental, Flo, mais c'est pas possible.
Merci Flo d'être venu, merci à Julien Laurence, merci les gars.
Bon match,
si on revient dès que t'as la compo marseillaise, on t'attend.
Tout à l'heure pour la compo, on veut la compo.
Évidemment. Et dans un instant, on parle de la crise profonde que traverse l'AS Monaco, giflé 6-1 hier sur la pelouse du Real Madrid.
Mon Dieu.
Est-ce que Thiago Scuro doit s'en aller? 32-16 pour participer avec nous, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La dernière demi-heure de Rotten sans flamme en mode Ligue des Champions. On se rapproche. On est à une heure, un peu moins d'une heure et demie du match, de l'affiche de cette septième journée de Ligue des Champions. Ouais, c'est septième journée. Marseille, Liverpool. On est avec Christophe Dugarry, on est avec Benoît Costil, avec Benoît Boutron. Bientôt, on va voir les compositions d'équipe de ce Liverpool Marseille. Mais avant, on va parler de l'AS Monaco.
Dans un instant, Monaco. Là. Et dans un quart d'heure, le quiz.
C'est la dépression. Hein.
Un an de café saveur noisette, le temps des cerises a gagné. Magnifique cadeau. C'est livré directement chez vous pour vous inscrire. 32-16, touche 4. Vous envoyez quiz par SMS au 7-32-16. C'est la mi-temps en Ligue des Champions entre Galatasaray et l'Atlético de Madrid. Un partout entre les deux clubs. Ce match intéresse le Paris Saint-Germain parce qu'en cas de victoire, les Colchoneros pourraient passer devant Paris au classement de cette Ligue des Champions. L'autre match en cours oppose Karabakh à Francfort, un partout là aussi, pour l'instant à la mi-temps. Mais tout de suite, parlons donc des Monégasques.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Par rapport à mon futur, je suis assez serein parce que, encore une fois, mes préparations de match pour l'équipe, toujours fait avec bienveillance par rapport au club, par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport à nos supporters, d'essayer d'apporter du jeu. Les résultats ne suivent pas. Je peux regarder droit devant moi et me dire, on fait le maximum pour le moment. La situation, elle est difficile. Certainement qu'on peut en discuter, mais j'ai pas envie de le faire. Les résultats reviendront. Et j'espère que ce sera avec moi parce que je pense que j'ai la force et la conviction que mes idées passeront un moment dans ce club. Mon futur, c'est pas moi qui le décide. Je ne changerai pas une seule chose de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
La VAR de Rotten sans flamme.
Avec un bilan pareil, c'est courageux de dire ça. 8 défaites en 18 matchs pour Sébastien Pocconi.
Mettre la dernière phrase.
Ah bah écoute, c'est ça.
Non mais je ne changerai pas, il a dit, je ne changerai pas. ce que j'ai,
si la moindre chose de ce que j'ai.
Et pourquoi changer?
Pourquoi changer l'équipe qui perd? Maxime Tillette pour rejoindre notre correspondant sur la Côte d'Azur. Il était présent au match hier.
Salut l'équipe. Bonsoir à tous. Cette et humiliation... je confirme, ce sont réellement ses propos. Ben voilà. Rien n'a été inventé.
Défaite 6-1 sur la pelouse du Real. Un grand Mbappé qui a été auteur d'un doublé. C'est la plus large défaite de l'histoire du club en compétition européenne. Maxime, est-ce qu'elle va avoir des conséquences concrètes ou est-ce que tu penses que rien ne va changer à Monaco?
Bah, le match du Havre samedi va arriver vite et c'est sans doute ce qui va donner un petit peu d'air, peut-être encore un petit peu aux hommes en place. En tout cas, la pression est forcément de plus en plus forte sur les épaules de tout le monde. Forcément, celle de Pocognoli qui n'a pas encore perdu son groupe malgré la dynamique. Scouro, lui, persiste et signe que c'était le bon choix de nommer l'entraîneur belge à la place d'Adi Hütter au mois d'octobre. Bon, depuis, vous le disiez, 8 défaites en 18 matchs pour lui sur le banc monégasque. On estime malgré tout que pour beaucoup, il voilà la préparation physique qui a été ratée dans les grandes largeurs cet été et les blessures en cascade le prouvent. Et puis pour ce qui est de Thiago Scouro qui est là depuis 2 ans et demi, bon bah jusqu'ici il a quand même rempli ses objectifs en allant chercher la Ligue des Champions 2 fois tout en équilibrant un peu les comptes. Donc même s'il est discret, le président Ribolovlev apprécie. Par contre cet été le mercato, c'est un gros échec et d'ailleurs ça aussi Pocognoli en paye un peu le voilà, c'est pas le responsable et il se retrouve avec un groupe très diminué et pas forcément équilibré. Donc voilà. En revanche, après Pocognoli hier soir à Bernabeu, l'entraîneur belge est arrivé avec une équipe complètement malade, hein, 7 défaites sur les 8 dernières journées de Ligue 1, mais il a quand même voulu jouer comme si tout allait bien, avec beaucoup de prises de risques qui sont surtout transformées en beaucoup de cadeaux. On a vu Monaco tirer certes 20 fois au but, mais ça s'est fini quand même avec un score de tennis 6-1. Donc voilà, attention, parce que vu la densité d'équipes dans cette Ligue des Champions qui vont se battre pour une petite place en barrage, la différence de but elle risque de compter et ce résultat risque de faire mal.
Et Marseille, Monaco est 9e de Ligue 1, hein. Donc là aussi en Ligue 1 c'est compliqué pour Monaco, les défaites s'enchaînent. Est-ce qu'il faut tout changer, Jérôme? Est-ce que Thiago Scouro, le directeur général du club, doit s'en aller?
Déjà quand t'as des postes à haute responsabilité, que t'as des résultats honteux, parce que c'est honteux en fait, tu peux perdre à Madrid, tu peux perdre à Bernabeu, tu peux perdre à domicile contre des équipes moyennes de Ligue 1 voire mauvaises de Ligue 1, il y a pas de souci, mais perdre comme ils le font depuis pas mal de semaines,
beaucoup de raclées surtout.
Non mais c'est voilà, ça, non mais c'est
zéro contre tout le monde, des 4, des 3, des 5, des 6
du gars, c'est exactement là-dessus que je veux en venir.
Dire quand Lorient, ils en ont pris combien?
Quand tu es directeur du football, tu es directeur sportif. Mais heureusement que tu as ta part de responsabilité sur ce qui se passe dans le club, dans l'engagement des joueurs.
Est-ce qu'il est plus responsable que Pocognoli?
Mais ils sont responsables. Pocognoli, je le mettais de côté, et Dugas me chambrait hier encore parce que je disais oui, mais bon, il vient d'arriver. À l'arrivée, quand j'entends parler, moi je l'aime beaucoup.
Mais tu peux pas parler comme ça. Tu veux dire, tu prends,
il est très sûr de lui.
Tu prends 6 buts.
Il aime beaucoup aller boire un verre.
Non, mais certainement.
Au Sas Café, puis voilà.
Je pense qu'il aurait, au casino, en fait. Non, mais t'as raison. Je l'aime beaucoup et peut-être qu'il aura plus de temps libre prochainement. Mais, et on le fera. Mais tu peux pas garder ces gens-là à la tête de ce club. Non, mais c'est honteux. C'est honteux de prendre 6 buts comme ça, 6 défaites de suite en Ligue 1 et qu'on
encore à 10, ils n'étaient pas très loin non plus. Hein.
Non,
ils auraient pu en prendre.
Exactement. Et de me dire et le pire, c'est
d'ailleurs aussi après. T'as eu d'ailleurs après.
D'ailleurs, qui a dit faut qu'on se regarde dans une glace.
D'ailleurs, il a dit ça. Ouais, génial.
Mais le recrutement de d'ailleurs, c'est typique. Le mec qui est à la tête du sportif, le directeur sportif Thiago Scuro, qui comprend rien à ce que c'est l'AS Monaco. Mais... parce que Dyer est un joueur qui est surcoté, parce qu'il a joué au Bayern Munich, du moins c'était le remplaçant du remplaçant au Bayern. Il était à Tottenham, excuse-moi, il n'a pas une carrière non plus internationale anglais. Ouais, voilà, c'est un bon joueur, mais pas un extraterrestre. Mais
moi, j'entends que vous me faites tous le constat.
Et tu le prends prêt à Monaco. Il est dans le confort, d'ailleurs. T'en fais pas qu'il en prenne 6, qu'il en prenne 5 en championnat, qu'il soit 9e, 15e. Il s'en fout.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
À son prime, il vient jamais à Monaco aussi.
À son prime,
il y a quelques temps.
Benoît, qu'est-ce qu'il faut faire à Monaco, alors?
Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, mais c'est difficile de sauter tout le monde. Forcément que Thiago Scuro, pour moi, il a sa part de responsabilité aujourd'hui. Tu as déjà viré à 10 hauteurs. Les joueurs sont leur part de responsabilité aujourd'hui. Mais tu t'es trompé un peu sur le recrutement quand même. D'ailleurs, ça donne pas satisfaction. Fatih, malgré ses quelques buts, on en a vu trop peu. Et puis, j'ai envie de dire, mais vraiment malheureusement, bah, aujourd'hui, il s'avère que le cas Paul Pogba est le retour qu'on attendait tous. J'irais même presque qu'on rêvait tous, qu'on pouvait que lui souhaiter du bien à lui et à Monaco par rapport à ça. Ben aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, c'est un échec. Donc ils se sont gaufrés et ils n'ont toujours pas résolu le problème des gardiens de but non plus. Et ça fait un petit moment.
Et c'est un vrai problème quand même.
Ah ouais. Je suis un peu surpris aussi de Mika Biretz. Et lui, on voyait enfiler les buts l'année dernière et là, il n'y a plus rien.
Il joue plus.
Ouais, ben lui, il a deux pieds, il a deux pelles à tarte, je te dis de suite. Par contre, il marque des buts, il s'est marqué des buts, mais alors par contre, le niveau technique.
Dernière, il t'en met 13 en 15 matchs de championnat quand même.
Oui, non, mais d'accord, mais il a le niveau technique, c'est compliqué quand
c'est
même.
Pas hein, faux,
c'est pas
faux,
non plus. Bon, après.
Faut vraiment lui mettre des bons ballons pour Guimarque.
Non, mais tu veux que je te dise Monaco, le problème, c'est que ils sont dans la pire des situations. C'est-à-dire que. Ils sont tous désespérés parce que il y a rien de pire dans un club de football quand t'as pas de solution ou d'idée. C'est-à-dire que là, ils sont tellement moisis, tous, qu'il n'y a aucune idée. C'est-à-dire que même le directeur sportif, personne n'a une idée, personne ne sait ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de pire que quand une situation elle est compliquée, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune idée pour pouvoir rebondir. Tu n'as aucune idée dans ta tête parce que t'es bidon et tu n'as aucune possibilité parce que le timing fait qu'aujourd'hui, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, ils sont dans la pire des situations. Moi, je rêverais qu'un jour, il y ait un mec, ils viennent au micro ou à la télé, ils te disent voilà, moi je suis responsable, j'ai échoué. C'est pas parce que t'as échoué que t'es naze.
Voilà.
T'avais une mission, t'as échoué.
Tu
reconnais tes erreurs. À la rigueur, si t'es confirmé par ton board et par ton président,
Il n'y a pas de problème.
Tu restes, voilà, y a pas de problème. Il a confiance en toi, tu restes. Mais tu proposes ta démission. Mec, t'as un challenge, t'as un objectif, tu ne le remplis pas. Au revoir. Or, t'as pris tes décisions d'entraîneur, pas une fois, deux fois, t'as pris des joueurs, c'est toi qui as décidé, t'as eu tous les pleins pouvoirs. Tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde, il y a pas de problème. Peut-être que tu feras mieux ailleurs et que tu montreras que t'es un
phénomène.
Mais il veut pas partir. Mais au bout d'un moment, quand est-ce qu'on a ses couronnes, quand est-ce qu'on est un homme, quand est-ce qu'on assume ce qu'on est, quand on assume ses choix. Au bout d'un moment, bien sûr qu'il veut pas partir parce que la gamelle elle est bonne. Lui aussi, il est bien au soleil.
Alors,
on parle des joueurs.
Mais la gamelle.
Mais je rêverais qu'un jour il y en ait un qui les couronnes de dire voilà, je me suis raté, je m'en vais.
Est-ce que vraiment les gens, moi, qui sont propriétaires de ce club à Monaco aujourd'hui prennent conscience que c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux de la part des joueurs et des postes à haute responsabilité. D'accord? Parce que
si tu leur dis, il y a 3000 supporters au stade, ils le voient même pas, ils s'en fichent.
Non, mais c'est pas. Non, du gars, moi j'y vais.
Mettez-moi du Julien du Roten là-dedans.
J'y vais très souvent à Monaco. Je peux te dire que, bien sûr que, et ils sont pas des millions, on est d'accord.
Ils étaient 2500 hier à Madrid.
Mais ça fait de la peine à beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'amoureux de l'AS Monaco et qui vivent pas forcément à Monaco. Et que aujourd'hui,
et puis
je vais te dire, il y a surtout l'amoureux numéro un, c'est le prince Albert. Moi, j'ai une pensée.
Johan lui lance un appel sur le Seigneur.
Non, mais parce que lui, il est au fond de tout là. Du moins, il constate des choses et il espère. Et toi, je finis là-dessus. Mais quand tu parles de prendre leur coronesse et de venir expliquer, ils ont pas envie de le faire. Sinon, ils l'auraient fait déjà bien avant. Quand tu vois qu'il y a
une explication à donner, va-t'en, poste ta démission et tu verras si ton président l'accepte ou pas. Mais au moins montre un peu que t'as des coronesses.
Écoute, moi,
ça, c'est utopique. Hein. Moi, tu crois vraiment qu'il va le faire
à Monaco plus qu'ailleurs. Et je finis là-dessus. À Monaco plus qu'ailleurs, les postes à haute responsabilité, que ça soit le président, que ça soit le directeur sportif et après l'entraîneur, ils doivent être respectés à 100% par les joueurs. Il n'y a pas un joueur qui doit se sentir au-dessus de ces gens-là. Le problème, Jérôme, c'est que leur attitude sur le terrain montre qu'ils en ont rien à carrer que ces gens-là.
Tu sais ce que me dit Johan sur le numéro WhatsApp ? Il me dit, moi j'ai une solution à moyen terme, allez me chercher Didier Deschamps. Remettez-moi de l'ordre dans ce club, un amoureux du club, et pourquoi pas Deschamps au sein de l'AS Monaco.
Bah, pourquoi pas.
Et Didier, il a
la fin de la Coupe du Monde, il est tranquille. Et en plus, c'est à côté de chez lui.
Faire, c'est parfait. Bah voilà, la prépa sera déjà commencée depuis un moment.
Oui, mais bon, il peut pas forcément être coach, mais en tout cas, il peut incarner quelque chose à Monaco. Merci Maxime Tillier
d'être venu. Sélectionneur.
Avec plaisir.
Ah bon ?
Rendez-vous lundi.
Ah, une annonce.
Ouais, il y a une annonce.
Une surprise en Roten sans flamme. Bon, on a hâte de vous raconter tout ça. Merci Maxime Tillier. Dans un instant, c'est le quiz de Roten sans flamme, tous contre Roten. Et la compo marseillaise qui va tomber ce soir, c'est Marseille-Liverpool. L'afterlive dès 20h. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC, on finit l'émission avec le quiz de Louis Gerbier. Mais avant le quiz, on est avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et Benoît Boutron. On va avoir alerte compo.
Alerte composition d'équipe. Voilà. Le choc du soir, Marseille-Liverpool, Florent Germain.
Fais-nous rêver.
Avec Jean-Louis Tour à côté,
et Jean-Louis
qui donnera la compo de Liverpool. Effectivement, Jean-Louis est là, il est tout beau, tout frais. Avant ce gros match, roulis dans le but, c'est bien le 11 qu'on annonçait. Il est impeccable, il est élégant et tout.
Élégant.
Mieux Julien Laurence en plus. Roulis dans le but, la défense, Murillo, Pavard, Balerdi et Medina. On verra le positionnement de Wea, qui est évidemment titulaire au milieu de terrain. Est-ce qu'il est à gauche, comme je le disais, pour ce rôle hybride et parfois une défense à 5, ou est-ce qu'il est à droite? On aura la confirmation tout à l'heure. Heubier et Kondogbia au milieu. Traoré est bien titulaire, comme on le disait. Et Greenwood et Guiri pour compléter l'attaque olympienne. Donc, évidemment, on a revu ses plans du côté de Roberto Zerbi quand Emerson a été blessé. Et c'est bien le 11 qui était pressenti et qu'on annonçait ce matin.
Et à Liverpool, l'info, c'est la titularisation de Salah. Pour la première fois depuis fin novembre, Arne Slot titularise. Donc Salah de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera devant avec Ekitike dans l'axe, Wirtz à gauche. C'est un 4-3-3 avec McAllister, Gravenberch et Szoboszlai au milieu de terrain. Gomez pour pallier au forfait de Konaté. C'est Kerkez qui joue arrière gauche avec Frimpong à droite, Van Dijk en capitaine et bien sûr Alisson dans les buts.
Merci Jean-Louis, merci Flo. 20h live en direct du Vélodrome. Ça va être magnifique avec le grand Manu Petit. On va se régaler. Ce sera juste après le quiz de Louis Jamier.
RMC. Tous contre Roten.
Salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Le cadeau est magnifique. C'est un an de café noisette, le temps des cerises. Vont s'affronter ce soir Arnold et Willy. Salut à vous deux.
Bonsoir.
Salut monsieur.
Et bonsoir. Salut Arnold.
Willy, tu es supporter de l'OM. Tu veux jouer avec le reste du monde ou avec Jérôme?
Ben, je vais choisir Jérôme, il a pris deux défaites hier soir, on va choisir Jérôme.
Allez Arnold.
Non, c'est Willy.
Non, c'est Willy.
Qu'est-ce que tu veux raconter,
Willy?
Allez, Willy avec Jérôme et donc Arnold avec le reste du monde. Vas-y Louis, c'est à toi.
Allez, on va faire un thème OM Liverpool.
Ah ouais.
Ah, c'est original.
Ouais. C'est original ou pas?
Ouais.
Allez, on commence avec une question flash. Si on additionne les Ligues des Champions gagnées par les deux clubs, ça donne combien?
Ah, 7. Pas mal.
Bravo.
6. Crac. Bravo Jérôme.
Bravo Jérôme. 7. 6 plus 1 pour ceux qui ne l'avaient pas.
6 pour qui?
Je sais plus, mince, ah, c'est qui. Question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer.
J'oublie tout, sérieusement je fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, c'est je me dis que la vie est courte.
Quel ancien coéquipier de Dugas en bleu a joué dans les deux clubs?
Anelka.
Non.
Si c'est.
Ah non. Oui, bonne réponse, Marzia, bravo.
Anelka, n'importe quoi.
Un partout. Bah, on continue. Tiens, quel ancien coéquipier de Djibril, cette fois en bleu, a joué dans les deux clubs? Coéquipier de Djibril en bleu.
Chirou.
Bravo, Benoît. Magnifique.
De, alors, un gros niveau du quiz. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Oulala.
Ouais, ouais. Oui, mais bon, là, je savais qu'il y avait des bons.
Ah ouais, bravo. 2-1 pour le reste.
Défaite encore, là. Arnaud Lewilly.
On est là.
Allez, oui. Contre quel club les Reds sont menés 3-0 en finale Ligue des Champions 2005?
Milan.
Bravo.
Qui a dit Milan?
Willy.
Willy.
Ah, oui. C'est Willy. Emmanuel Petit, ouais, tu n'as pas entendu. Ça fait deux partout, mais il est dingue ce quiz.
Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
Oui.
RMC, la question pour le patron.
Tout le monde a le droit de répondre.
Tout le monde, bien sûr. Quel ancien coéquipier de Jérôme a joué dans les deux clubs?
Ah.
Ah bon?
Ah bon?
C'est celui-là. Alors
oula. Quel poste?
Coéquipier.
Plutôt devant.
Mais coéquipier où?
Morientes.
Bravo.
Oh là là. Oui, oh. Crac. 3-2.
Eh.
Il est bon l'ostréiculteur. Ouais.
Hein. Bravo. Ouais. Bravo Benoît.
Ah, bravo.
Multifonction.
3-2 pour le reste du monde.
Et il est bon quand il a fait
pas du. Il vous a jamais beau, parlé hein. De sa vibora au padel. Hein. Attention. Hein. Elle fait...
Et c'est vrai, au padel, c'est une machine, il paraît.
Ouais, ouais.
Ah, j'ai pété une vitre.
Question d'Imeco. Ah.
Bravo messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Des grands hommes.
Pizzaiolo d'Imeco.
Ah ouais.
On cherche un vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool en 2005 qui a aussi joué à l'OM. Stade Lavallois, Liverpool, RC Lens, Charlton, Portsmouth, Stade Rennais, Portsmouth, Birmingham.
Je l'ai, je peux pas.
Traoré.
Tout le monde, tout le monde.
Alou Djara.
Non. Ah non.
Traoré.
Jimmy Traoré.
Jimmy Traoré. Bah, je t'ai dit Traoré, ah, j'ai pas entendu.
3-3.
Ça, bonne réponse de Jérôme Rotten.
Il est fou.
3-3, 1 minute 30.
Question flash. Quel joueur passé par les deux clubs, et pas cité encore, jouait pour l'OM lors du fameux Liverpool-OM avec la frappe de Valbuena?
Ah.
Si, Zenden.
Oh là là là,
oh là, là. 4-3 pour le reste du monde. Ça va à une vitesse.
C'est époque, ça. C'est ouais. Une période.
Ouais. C'est dingue.
C'est dingue, comme quand même.
Déjà, oh là là. Oh là là, dommage.
Souffle, Jérôme, souffle.
Statu quo, on touche à rien.
Crucifié. Alors là, c'est la faute à pas de chance.
Mais c'est le con.
Ah bah là, c'est la faute à pas de chance. Et c'est la victoire du reste du monde. Et d'Arnold, ouais, qui remporte bravo, ce magnifique cadeau. Bravo Benoît, bravo Dugas, vous avez été énorme.
De plus, j'ai tout gagné aujourd'hui.
Comment on a terminé?
Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Bah, c'est la routine, c'est le hasard.
Et toi, avec ton rictus, je te
supporte. C'est le hasard, plus. Mais c'est fou.
Quoi, bah, j'avais une super question. C'est frustrant.
Bon, allez, on continue.
C'est rageant.
Bravo Arnold.
Jouer sur RMC avec le temps des cerises. L'expérience d'un café noisette aux saveurs raffinées, aux arômes intenses et irrésistiblement gourmands. Rendez-vous sur letempsdescerises.fr.
Alors demain, grande émission Rotten sans flamme. Jérôme va vous l'annoncer dans un instant, mais surtout dans quelques secondes, c'est l'afterlife en direct du Vélodrome avec Jean-Louis Tour, avec Florent Germain, avec Manu Petit. Grande soirée pour l'OM face à Liverpool, Jérôme.
C'est là que ça se passe sur RMC. Restez bien à l'écoute d'RMC. Et nous, on se retrouve demain dans Rotten sans flamme. Ça s'arrête jamais. Et on va débriefer ce formidable soir et surtout ce match Marseille-Liverpool. Donc, on va se régaler. À demain, 18h. Grande émission. Bisous. À demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.